Le rec est parti, on est live, tout fonctionne, fait que... Ok, ben ça devrait marcher.
Okay, fait que... C'était pas prévu. Très sponsor.
Espèce de gredin! Un vieux iPhone de maudit pauvre, oui! Oui, effectivement.
That podcast money.
Ouais, le gros podcast money, on va
le
faire
Patreon
comme...
Le Patreon va te payer un iPhone.
Qu'est-ce que t'as-tu vu? Je dis ça de même, là, pour le monde qui nous écoute, au cas que vous voulez changer ça, renverser la médaille. Murphy Cooper fait déjà plus d'argent que nous sur Patreon.
Ce qui est un peu triste en soi.
Ouais.
Avec mais tout le respect que je dois au créateur de contenu québécois.
Il a perdu sa job de prof, man. Donnez-y un break. Il mérite cet argent-là.
Il était prof?
T'es prof de quoi?
Vous voyez pas ses vidéos?
C'était-tu le seul prof?
Non, on n'écoute pas ses vidéos.
Il est prof du primaire.
Oh my god, il enseigne à des enfants, ce gars-là?
Non, mais pour de vrai, il est concierge, mais dans ses vidéos...
Il est prof de primaire, puis il est en 2019.
Il preach à ses enfants de pas manger de viande. Dans sa classe, il est converti au mettre un voile, être comme musulman.
Ben, c'est correct, ça.
Il des affaires. Ben ouais, mais là, il y a des parents qui chialent.
Je vais dire, arrêter de me toucher, veuillez sortir de la classe.
Genre. Jeunesse influençable. Ça n'a pas de colonne, ces petits Chris-là. Non, je niaise. Fait que diriez-vous si on débutait le podcast, messieurs?
Pourrait bien.
On pourrait faire ça. Idée.
Si vous partagez, pas si vous partagez, si vous donnez de l'argent à notre Patreon, on va acheter des mini micros pour mettre à côté des claviers pour entendre les keystrokes, genre.
Ou juste un clavier mécanique.
Mécanique, tu vas l'entendre dans un rayon de 30 km.
C'est un rayon de 30 km. Qu'est-ce qui se passe? Le gars au coin de la rue joue à Counter-Strike.
Juste des blue keys. Là.
Fuck. Bon, ben, guys, startons. Qu'est-ce qui se passe avec la cam? Donne-moi 30 secondes.
Il est comme embrouillé.
Non, mais comme...
Ma face est...
C'est moi qui ai un toc.
Est flou.
C'est-tu mieux de même? Non, c'est pas mieux de même. C'est-tu mieux de même? Là, c'est mieux de même. Bon, OK.
Toi, tu le vois là.
À partir de maintenant, on s'en calisse. All right.
Non, c'est pas bon, Supergirl.
OK. C'est super bon, Supergirl. Hey, en passant, voulez-vous que je vous mind blow?
Un peu cheesy.
Supergirl, tu sais, dans la télésérie, elle a une sœur, Supergirl. La sœur, en fait, l'actrice qui fait la sœur de Supergirl.
Celle qui est lesbienne dans la série.
C'est ça, celle qui est. Ben, spoiler, saison 2. Ah. Mais. C'est pas grave. La saison 1 est sortie, ça fait longtemps. Fait que, écoutez.
J'ai juste lu ça sur Wired.
Mais, c'est ça, c'était elle qui faisait la pitoune dans le clip de Tainted Love de Marilyn Manson. Fait que je viens de désenchanter une bonne génération de gens qui tripaient sur le personnage dans Supergirl.
À quoi? À 40 ans, la fille?
Quasiment. Honnêtement, là, c'est un peu
puis
weird.
Puis elle joue la sœur... Es-tu la grande sœur de Supergirl?
Ouais, oui, okay. Oui, c'est la grande sœur de Supergirl.
J'étais là, c'est bon.
Mais elle pourrait jouer la petite sœur de Supergirl. Anyways, moi, sais-tu quoi? CW m'ont comme désillusionné avec leur idée de l'adolescence. Là, c'est un adolescent de 44 ans, je pense que ça n'existe plus.
Luke Perry.
Fuck, man. Luke Perry, qui est le père de Archie.
Que je vais parler à mon actualité.
Oh, tu vas parler de Riverdale. C'est
peut-être,
bon, ça.
Peut-être.
Fait que, me permets-tu, Milton, on va partir le show?
Go.
Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Le seul podcast geek au Québec qui est animé par un barbu avec une casquette à l'envers.
T'es sûr?
Non. En fait, on est au moins 48 de même. Ouais. C'est ça qui se passe. Donc, nous sommes un podcast québécois francophone canadien qui traite sur la culture populaire et impopulaire. Et accompagné avec moi ce soir, ben j'ai Jonathan Milter.
Oui!
Je t'ai-tu surpris en flagrant délit de...
Ben, un peu d'avalage de gorgée. Et t'as-tu remarqué, je sonne plus comme Renan Gélil?
Non, effectivement, tu sonnes comme quelqu'un qui a un compte en banque bien moins garni.
Un peu, mais Ouais. Mon moyen que tu m'entends quand je parle. Pas comme oui. Le dernier épisode que j'ai participé. Que...
René Angélil, tout un personnage, mais je suis content que tu aies retrouvé ta voix, Melter, parce que tu vas pouvoir probablement te lâcher un peu plus lousse avec tes commentaires
oui,
placés.
Oui, je vais me reprendre un peu. Shout out justement à René, qui il va bien, ça, c'est dans cette.
Ben, il fait des high fives, ça a l'air en arrière de la scène.
Oui.
Bon, ben, on a eu notre quota de malaise, accompagné également de Maxime Gagnon.
Ben, salut André.
Max, t'es pas mal rendu un recurring character niveau 2 là maintenant.
Ouais, rendu à troisième session en termes
de débloquer des new skills.
Il va falloir qu'on paye des redevances à l'Union des artistes dans pas long.
Puis, il va peut-être espérer parler un petit peu plus que les 10-15 minutes que j'ai faites au dernier podcast.
Écoute, on va essayer de moins de couper la parole aussi.
C'est comme notre engagement. Un point de, c'est chaque podcast, c'est un millième de points d'union des artistes, ça?
Fait que c'est au moins, quoi, c'est 100 000 par épisode?
Je sais plus.
100 000 yens.
Ouais, yens.
Ouais.
On a aussi avec nous... Hey, je présente le monde quand ils boivent la bière ce soir, c'était cool.
Ouais, je suis prêt, là.
On a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-Philippe Descaries-Mathieu.
Bonsoir.
Co-fondateur... Je m'excuse, j'ai charcuté ton nom.
En plus, avant de commencer, tu me dis genre, ça va mieux depuis que je bois pas pendant le show. Ça paraît pas, là. Ouais, il boit, là.
Ben écoute, c'est du Mountain Dew, fait que la pire affaire qui va arriver, je vais être meilleur aux jeux vidéo, puis je vais avoir vraiment le goût de manger
deux
des
fois.
Je vais t'aider. Co-fondateur de Crypto Québec, oui.
Moi. Merci. Parle-nous donc, Crypto-Québec, pour les gens qui n'ont pas écouté le dernier épisode qui était avec nous, ça fait quoi exactement, Crypto-Québec?
Crypto-Québec est un organisme sans but lucratif dont le but premier est de promouvoir et vulgariser les enjeux reliés à la sécurité informatique, la surveillance de masse, la vie privée, le milieu du renseignement, ce genre de choses-là.
Donc, un auditoire principalement composé de jeunes hommes entre 30 et 44 ans aimant beaucoup les chapeaux en papier d'aluminium.
Oui, exactement. Puis ils ont un oreiller de grandeur nature avec une fille japonaise asiatique. Là, ouais, c'est
ça. Tu vois, on partage le même auditoire, je pense.
Oh, super, ouais. En fait, il faut comprendre qu'on fait un podcast qui s'appelle Les Chaînes de Garde, mais c'est pas notre seul exutoire. On fait beaucoup d'ateliers de formation. On va dans les écoles, on va dans différents milieux privés, on enseigne aux gens comment essentiellement se protéger, sécuriser leur communication, ce genre de trucs-là. Donc on fait plusieurs choses en fait.
Fait que c'est comme des cours de FPS mais modernes.
<C'est boire. rire> Oui, on apprend à coudre un portefeuille que jamais on veut utiliser. C'est ça, exactement, c'est la même chose.
Moi, je parlais plus de l'autre cours. Ah non, c'était pas FPS. C'est pas ça le cours où tu déroules la capote, c'est la graine en bois.
Ah
là,
oui,
okay. C'est FPS.
C'est
tu te trompes économie familiale.
Oui, on est vieux.
Va faire des. Ils font plus ça à l'école.
C'est loin.
C'était pas ça que tu construisais une genre de.
Pour mettre des aiguilles.
Pour mettre des affaires avec une batterie 9 volts et une LED rouge dessus. Là,
non, c'est jamais rendu jusque-là.
Ça, c'est science physique.
Non, ça, c'était
en techno, ça.
En techno, c'est vrai.
Un cours qui a été abandonné par les MEQ, d'ailleurs.
Ça s'appelait techno?
Oui, c'était ouais. Techno.
Wow. J'ai jamais eu ce cours-là.
J'ai jamais coupé autant de bois qu'en techno. Ce qui est un peu ironique en soi. Oui. Là. Fait qu'on vient un peu de dévoiler notre âge, je pense. On vient de se trahir. Mais merci d'être avec nous autres, JP.
Ça fait plaisir.
Ça va être cool.
La deuxième fois.
Ben oui, ben oui.
Ça fait... La dernière fois, c'est quoi? Il y a fait un an et quelques?
Ça fait-tu un an déjà?
Vous lanciez.
Vous lanciez
Crypto. C'est vrai,
non,
que
mais
oui.
C'est le podcast que vous lanciez.
Ok, fait que ça fait à peu près un an, là. 40 épisodes plus tard, ouais, ça fait du sens, là. On lançait Crypto Québec officiellement comme OSBL à ce moment-là. Ça existait depuis déjà un an ou. Auparavant, mais ouais, ça.
À qui aurait cru que dans un an plus tard, le collectif existerait toujours? Oui. On a un beau show à soir, c'est super le fun. On va parler de la zone grise. Fait que pour les gens qui ont lu en bas, à peu près là, ou peut-être un peu plus bas, la zone grise.
Le fine print.
Fait qu'on va avoir un beau sujet à discuter ensemble, mais avant, on va continuer la bonne tradition du collectif. On va y aller avec un tour d'actualité. Pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres dans ces derniers temps, qu'est-ce qui a marqué votre curiosité et votre imaginaire aussi également. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui veut débuter ou...
Moi, ça me dérange pas.
Moi, j'aime ça, mais toi, t'es tout le temps willing.
Quand t'as de la voix, tu peux commencer.
Ouais, c'est ça. Je check si les autres le veulent, qu'ils sont énervés. Des fois, je vous chique Eric, gigote un peu, puis comme, faut que ça sorte.
Eric gigote beaucoup, ça sort.
Fait que là, en tout cas, j'ai quatre petits sujets, bien vite. J'ai mentionné tantôt un peu Riverdale.
Oui.
Mais avant de tomber sur Riverdale, j'aimerais parler d'un petit jeu que j'ai commencé hier. Puis c'est pas la première fois que je tombe addict à un genre de petit jeu de même. Et c'est con à dire, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est sorti sur téléphone. Puis tout le monde sait que je déteste, pour mourir, le jeu de, les jeux sur le téléphone. C'est toute de la merde. C'est tous des jeux qu'il faut que tu attendes 8 heures avant d'avoir ton autre esti de cabane ou quelque chose de même. Puis au début, tu te fais du fun, puis une heure après, tu te rends compte que non, là, faut que j'attende. Ça commence à être chiant. Il t'introduit la microtransaction que jamais vous allez avoir une scène de moi, les compagnies de jeux de téléphone. Pas jamais de ma vie, je vais payer une pièce pour quoi que ce soit. Ça me tente pas. Puis là, mais j'ai pogné ce jeu-là gratis sur Xbox One. C'est Clicker Heroes. Il est disponible sur PS4 aussi. Mais moi, je suis tombé en amour avec ce jeu-là vite. Puis ça m'a fait penser à un autre jeu que j'étais addict il y a quelques mois. Ça s'appelait Adventure Capitalist. Je pense que je n'avais parlé ici un peu. Ben, c'est un idle game.
T'as parlé de capitaliste, puis t'as JP qui s'en va
tout
de suite.
Comment je peux monétiser ça, là?
C'est sûr, le bonhomme est tellement cool. En plus, il fait penser un peu à Fallout style, le bonhomme, là. Mais c'est un idle game, puis je sais pas si vous savez c'est quoi, un idle game.
C'est que ça se joue quand tu joues pas.
Ça se joue quand tu joues pas, mais en plus, tu... Comment je peux dire? Il y a rien qui se passe dans l'écran en tant que tel.
C'est excitant, même. Oh,
non, mais tu sais, il y a pas de la
grosse action. Dis-moi en plus, j'entends.
Mais c'est un gros jeu de stats, puis de maths, puis d'affaires de même. Fait
que wow! Si t'aimes ces affaires-là... Il va y avoir des femmes qui jouent à ça, man.
Moi, j'étais un gars de chiffres, là, tu sais. Fait que tu joues à ça, mais là, au lieu du contraire d'Adventure Capitaliste, que t'achètes des affaires, puis que des compagnies avec des fois 10, des fois, en tout cas, des affaires de même... Là, c'est le contraire. T'achètes des genres de bonhommes, si on peut dire, médiéval. En plus, c'est drôle que j'aime
beaucoup. Ok, t'as peur. Fait que c'est un jeu de mathématiques médiéval.
Ben, t'achètes des bonhommes. Tes bonhommes, ils font un damage per second. Okay. Toute la gang sur une bibitte. Fait que tu joues pas, puis ça bat des bibittes. Mais tu peux cliquer sur ton piton X comme un crise de malade, là. C'est ça le but du jeu, un peu. Clicker Heroes. Puis là, t'avances au travail des bébites qui se battent tout seul, puis tu level up, tu fais de l'argent. Puis tu sais, c'est comme automatique. Ben, il faut que tu gères tes upgrades, puis nanana, puis tout. C'est gratis, c'est addictive.
Y a-tu des quick time events? Ça serait parfait.
Il y en a le pire.
Quel bon jeu!
Tu pèses des fois, genre, t'es en train de peser X comme un asti de malade, puis là, il y a un genre. Là, il y a un genre de petit bonhomme qui apparaît. Non, non, c'est plus complexe que ça. Il y a un genre de goldfish qui apparaît avec un je sais pas quoi. Là, il y a un petit bonhomme avec, je pense, un Vogue ou whatever. Mais là, il est là, puis faut que tu cliques tout le temps le left stick, puis que tu pèses un des quatre pitons. Genre, il est écrit. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les quick time events sont quand même assez longs. Comme tantôt, j'étais arrivé, tu sais, je laissais le jeu jouer. Fait que là, j'arrive avec un panier de linge sale que j'ai descendu en bas. Comme je vois le bonhomme qui est dans la TV, qui est là. J'ai le temps de dropper le panier, aller chercher la manette qui est sur le divan, me revirer de bord, regarder, faire OK, c'est B, OK, L, B. Puis je l'ai eu, tu sais, j'ai eu comme une bonne minute dans le quick time event pour le faire. Puis là, t'unlock des chests, des cassins et puis tout. En tout cas, c'est le fun, c'est addictif. Pour le monde qui veut jouer à ça, c'est sur cellulaire aussi, mais moi j'haïs ça, les jeux de cellulaire. Mais
on dirait que t'as expliqué le plot d'un animé de 2018.
C'est drôle, là, t'ajoutes tes bonhommes, tout, là, t'es Drunken Brawler, Ice Princess, puis ils fit pas en tout, t'es level up. Genre, mes bonhommes sont level 220, puis j'étais au début du jeu, là. Je fais genre...
C'est un genre de mélange de Dark Souls puis Barbie's Magical Horse Adventure. Genre.
Mais ça joue tout seul. T'as pas besoin de
ça
rien
joue tout seul en plus. C'est comme The Sims. Et The Sims. Nice.
Ouais. Mais en gros, c'est cool. Allez chercher ça.
Suite.
Avant de tomber sur Riverdale, je veux faire un shout-out à Lord, ma grande chum Lord. son album, il est très bon, son nouveau.
J'ai pas écouté l'album.
Il est très bon. En tout cas, moi, je l'aime bien. Puis, parlant de musique, je voulais votre opinion bien vite... What's up avec Ed Sheeran?
Le seul roux qui a du succès de toute la planète Terre.
Mais pourquoi?
Mais pourquoi?
Du succès, c'est ça.
J'entends partout à radio, est-ce que je suis pas capable?
Mais moi, c'est pas que je suis pas capable. Pourquoi?
Il est sorti d'où?
C'est pas excellent, c'est qui? C'est juste de la musique bien normale. Je sais pas.
Ça parle d'Ed Sheeran partout.
Toutes ses tunes, Shape of You.
Oui, puis je sais pas, il est sorti d'où, ce gars-là? On a parlé comme si ça faisait déjà 10 ans qu'il faisait
de la musique. Le gars, il faisait de la musique. En fait, là, moi, ma théorie, c'est qu'il a vendu son âme au diable. Parce que avant il était guitariste, puis il faisait de la musique avec des guides, puis des affaires la même, puis la quitte, des petites tunes de genre « Je te chante la pomme », etc.
Ben, c'est ça
que
je m'en ai dit.
Puis là, ben, c'est rendu du pop, Maroon funky, 5, genre, avec des clips de lui qui s'entraîne, puis c'est pas crédible, parce qu'il est roux, là.
Il y a plein de tatous.
J'adore les roux, en passant.
Il ressemble à un chanteur québécois aussi.
Comment ça dit ça?
Il ressemble à un chanteur québécois aussi. Je ne sais plus c'est qui, mais je sais qu'il a parti sa carrière en vendant du pot. Bon, je t'en niaise pas.
Ed Sheeran ou le chanteur québécois?
Non, l'autre qui est chanteur québécois. Ed Sheeran, je ne sais pas c'est qui. Comment qu'il est parti, je veux dire.
Fait que ça, c'était le deuxième sujet d'actualité.
C'était le troisième sujet.
Ok, le troisième. Ok, good.
Lord, c'était le deuxième.
J'aime ça, c'est en rafale. Hey, Lord, peux-tu faire un shout-out, par exemple? Sa toune qui a dit qu'elle se maquille dans le char, là.
Green light.
C'est des astuces de paroles de merde, ça.
C'est toutes tes paroles de merde, Lord, qu'est-ce qu'elle fait, mais tu t'en rends pas compte parce que c'est tellement beau dans la musique.
Oui, c'est un shout-out.
Non, mais c'est vrai.
T'es vraiment un bon vendeur.
Check les autres tunes d'avant, là, de Lord, il y en a une, c'est at the tennis court. C'est comme what the fuck, le tennis.
Yeah,
c'est
yeah.
La merde, ça, le tennis.
Feeling good on a Wednesday.
C'est la version Lord de 40 ans, d'homme blanc. Mais non, mais en tout cas, j'aime beaucoup Lord, mais des fois, tu t'attardes pas trop aux lyrics, mais en même temps, tu sais, comme elle dit dans la tune Greenlight, elle dit I hear sounds in my head. Pas tout là.
Hey Chuck, partage avec nous que Ed Sheeran a sorti Thinking Out Loud il y a 2 ans. Puis ça a également été aussi.
Oui, il a
succès.
Sorti plein de tunes. La tune aussi, tu sais, qui parle d'une prostituée, là. Puis que c'est un gros slow, là.
C'est pas Éric Lapointe, ça?
C'est Ed Sheeran. Éric Lapointe fait les covers, dans le fond.
OK.
Mais, non, OK, bon. Mon dernier sujet. là, je veux votre opinion là-dessus.
Ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait arrêter le podcast après l'actualité de Milter, puis ça serait quand même divertissant,
t'sais. Ben non. Riverdale,
oui.
Avez-vous écouté?
J'écoute beaucoup Riverdale et j'adore ça.
J'ai pas encore touché à ça.
OK.
Je suis sceptique.
Pourquoi t'aimes ça, André? Je suis vraiment déçu, man, de ça. M'a dit plein de raisons. Tout est filmé avec une teinte de roux. Je sais pas si c'est un concept, mais il amplifie trop ça, puis Archie n'est pas assez roux. Mais tout le monde est comme un peu roux.
Ben, sais-tu, moi, ça me fait penser. Tu sais, la scène dans OSS 117 qui filme dans le désert, puis qui met juste une pellicule bleue devant la caméra pour que ça ait l'air d'être la nuit. Là.
Ouais.
Riverdale est filmé au complet de moi.
Ben, on dirait roux à la place avec une pellicule rouge, genre.
Ils ont pris le color correction, puis ils ont fait comme fuck that, je vais pas dans le rouge, je vais dans le bleu.
Ça me gosse.
OK.
Pourquoi Archie est rendu avec des abs?
Parce qu'il a travaillé tout l'été pour ramasser de l'argent. Chris, c'est dans le premier épisode.
Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est un gros fucking
attends,
nerd.
OK, attends un peu. Fait que toi, le fait que... Attends un peu. Archie a des abs, ça te dérange, mais que Miss Grundy soit rendue fucking hot...
Je suis pas rendu là. Ça, c'est une autre affaire. Miss Grundy, qu'on se rend compte plus tard, qui s'appelle Jessica quelque chose. Puis,
spoiler.
Regardez pas ça de toute façon. Mais
fucking gros spoiler.
Plus tard. Mais moi, gars, je m'attendais à CSI Archie, genre, là, quand j'ai lu la description.
CSI
j'ai fait...
Archie.
Mais non, mais tu sais, dans le sens, il y a un meurtre, puis tu sais, on va le résoudre, puis avec les personnages d'Archie.
OK, Scooby-Doo, là, finalement.
Carrément, ça serait carrément si ça aurait été Scooby-Doo avec les personnages d'Archie. Gros fucking hit, man. Mieux que le Dave Chappelle show sur Netflix, puis tout. Mais ça, c'est mon opinion. Là, t'arrives, là, pis, gars, Kevin, il est obligé d'être gay. Moose, il est obligé d'être bisexuel, bicurieux. C'est comme, come on, c'était le gros fucking douche cave, genre, tu l'as
non, mais c'était le big jock qui est devenu un homosexuel, curieux, bisexuel.
Et où Midge pour le ramener, là?
Ben, peut-être pas là déjà, Midge.
Ben, c'est ça. Il y a un problème.
Ben,
même.
Il manque des personnages.
Il manque des affaires.
Ah, mais ils sont pas obligés de tout t'adonner.
Pourquoi les parents à tout le monde, c'est toutes des fucking bitches dans toute la série? Tout le monde, sérieux, là, tout le monde a des parents incroyablement caves.
À part Luke Perry, il est cool.
Stupide. Il est pas vite, mais il est plus cool que toute la
gang.
C'est
Luke Perry.
Il est plus
cool
que toute la gang. Ouais, mais c'est la mère à qui? Archie qui. Non, c'est la mère à Véronica, excuse. Tabarnak, ils vont pas être en prison.
Ils sont riches
au bout. Ouais. Son père, il était là, Véronica. Véronica a de l'air d'une Mila Kunis mal maquillée. les Josiennes de Pussycat qui sont toutes noires. Tu sais, le blackwashing partout, là. Moi,
le blackwashing,
non,
wow.
Mais, wow. Même Marvel, là, sérieux, là, quand tu fais un Iron Man, puis là, Guillaume, il est pas là pour défendre le concept, c'est correct, là. Mais,
c'est pour ça qu'il en profite.
Là, mais j'en vais en profiter, là, parce qu'il aurait trouvé de quoi d'écœurant à dire là-dessus. Mais pourquoi que Iron Man est rendu une fucking fille noire? Tu sais, vouloir être trop, créer un nouveau personnage.
Inspiré d'Archie.
Tu sais, Archie, là, il aurait juste... Oui, mais il aurait justement juste appelé ça un autre esti de nom d'affaires puis faire la même histoire Netflix avec des personnages crédibles qui n'ont pas toute l'air d'une gang de...
CW Milter.
Je sais pas comment dire ça.
C'est
mais...
tous des adolescents de 44 ans, super bien sapés aux dents blanches.
Je sais pas, je trouve ça ridiculement weird. Pis...
Moi, tu vois, je vais te dire pourquoi je l'écoute et pourquoi j'aime ça.
Mais je l'écoute pareil, c'est ça le problème.
Ce que j'aime, c'est l'ambiance dérangée. C'est justement où.
Tout le monde a l'air à pas avoir pris ses médicaments, genre.
Ben, t'as ça, puis t'as le point de repère où. Je connais ça, Archie. C'est un peu familier. La tuque à Jughead, elle ressemble au chapeau à Jughead.
Il mange même pas d'hamburger. Ben pas non, une fois.
C'est pas un gourmand. Chris, il n'y a pas une scène. Il habite dans le.
Hey, sacrement, vole quelque chose.
Ben écoute, on va peut-être se rendre là éventuellement.
Il têtait de l'argent à tout le monde dans les comics aussi, me semble.
Le climat de Riverdale, par exemple, je le trouve cool. Ou. C'est comme, attends, là, ça me rappelle, je vais faire un petit parallèle, puis le monde va faire où tu t'en vas avec tes shorts. Là. Californication avec David Duchovny, que t'écoutes le show, puis tu dis David Duchovny, c'est un esti de fucker, puis tout le monde est correct, puis plus la série avance, plus tu fais ah, finalement, David Duchovny, il a une tête sur ses épaules, puis c'est tout le monde autour de lui qui sont weird. Il y a le même climat dans Riverdale où tous les personnages sont fuckés, ils ont tout quelque chose.
Jughead.
Hey man, excuse-moi, mais le personnage le plus intéressant, je trouve, de Riverdale, c'est Betty.
Ouais. C'est une
hey man, quand à un moment donné, il y a une scène là, où elle est tellement en tabarnak, elle serre le poing à un point tel que ses ongles, comme la serre, puis elle saigne de la main, tu sais. Puis là, tu fais comme, OK, cette fille-là n'est pas bien dans sa
mais
tête.
Ça doit être plus facile quand t'as des longs ongles de fille.
Ben, j'imagine. Ça doit faire mal aussi.
C'est ça.
Oui, mais c'est ça, c'est tout l'aspect, j'ai des points de repère familiers où, OK, il y a Archie, il y a Jughead, il y a telle affaire, puis je me retrouve un peu, mais... sont juste assez actualisés puis fuckés pour garder l'intérêt là-dedans.
Ben, moi, j'aurais été plus intéressé, on dirait, puis moins porté à juger. Puis je l'aurais probablement écouté pareil s'il aurait juste appelé ça Seattle, tu sais, puis mettre une petite ville, puis des personnages.
Ça se passe à Riverdale,
mais
pas été pertinent.
Non, mais tu sais, la même petite ville, puis tout, c'est juste comme utiliser le nom, je trouve, pour intéresser les gens à le regarder ou quelque chose de même, quand juste dire une série Netflix d'un meurtre, tu sais, whatever.
Ouais.
Puis moi, personnellement, j'aurais peut-être plus embarqué parce que là, je suis trop stické.
Il aurait pu faire comme Stranger détails. Things, dans le fond, puis comme, non, c'est pas Amblin Entertainment, tu sais, c'est vraiment ouais. pas ça pantoute, c'est autre chose, OK, mais qu'en réalité, c'est en même cas des affaires.
Genre, dans ouais. un sens, tu sais.
Mais je suis d'accord avec toi, il aurait pu appeler ça autre chose, mais d'un autre côté, je pense que...
Ben, je vois pas assez... Excuse-moi,
il aurait pas eu assez de monde qui l'aurait écouté.
Ben, c'est ça, c'est un faux marketing, je trouve, puis je suis un peu déçu de ça, dans le sens que je trouve que juste dire à ce une nouvelle série Netflix, faite par Netflix, là, c'est assez de marketing... Parce que toutes les dernières séries, ou presque, qui étaient vraiment bonnes, à part l'affaire de marde de France, là, mais c'était
mais
des Français.
Si tu
là,
me permets, là,
je suis qui nous écoute, excusez-nous. Là.
J'aimerais faire un segue là-dessus, puis peut-être embarquer avec certains sujets. Parce que tu dis justement toutes les séries de Netflix. Dans mon actualité, moi, ce que j'aimerais discuter avec vous autres, c'était Iron Fist aussi de Netflix.
Ah, je ne l'ai pas écouté encore.
Qui, parce que tu dis pénible, justement, écoute,
Iron... Je suis en train de finir Luke Cage, moi, il me reste un épisode.
Ben, tu vois, Luke Cage, déjà, je me suis forcé pour le finir parce que c'était correct, mais c'était pas écœurant, surtout après Daredevil.
Ouais.
Iron Fist...
C'est-tu du festival de l'orientalisme? C'est ça que moi, j'entends dire. autant que tu dis qu'il y a du blackwashing dans la Riverdale, moi, j'entends dire que c'était vraiment là, le festival des stéréotypes asiatiques. Honolulu Chinaman.
Ben, un peu, mais en réalité, je sais pas si vous avez vu l'épisode de Seinfeld où ils ont un pitch puis ils disent « It's a show about nothing ».
C'est ça.
« Iron Fist is a show about nothing ». Tu sais, c'est un show que... Il revient, puis je me rappelle même plus du nom du personnage, Daniel Rand.
Iron
Fist, il revient, puis il fait juste s'excuser, puis c'est trois épisodes de « Hey, je veux juste te parler. Non, hey, écoute, c'est moi, je reviens. Je vous dis que c'est moi, je suis pas mort, je veux juste vous parler. » Trois épisodes, puis un moment donné, il parle. Puis là, un moment donné, tu tombes endormi sur le sofa, tu te réveilles comme deux épisodes plus tard, puis tu t'en calisses. Pis il y a des scènes de combat que c'est cool, mais après que t'aies vu Daredevil, tu fais comme moi. Et finalement, la scène avec le marteau dans Old Boy original était meilleure que ça. Fait que tu sais, moi c'est un peu, tu sais ce que tu disais, tu sais, la gamique de Riverdale, ils ont utilisé le nom de Riverdale, telle affaire. Je suis d'accord avec toi. Puis ce que tu dis après, c'est ben Netflix là, sont rendus assez forts pour pouvoir faire leur propre IP. Puis tu sais, le monde va les
pareil.
Mais
le marketing, ils n'ont pas besoin du plus d'après
ben,
moi,
vois,
c'est ça.
Iron Fist, moi là, c'est l'apothéose de ce que tu viens de dire. C'est Ah, on est Netflix, le monde va l'écouter. C'est fucking pas bon, man. C'est pas bon, Iron Fist. On va se dire les vraies choses, hein. Moi, depuis le début, premièrement, je savais même pas c'était qui Iron Fist, puis je savais même pas c'était qui The Steel Defenders.
Mais c'est peut-être pour ça que t'as moins ça.
Non, non, mais. Puis là, après ça, une année, j'ai fait comme fuck it, j'écoute Daredevil. Hey, Daredevil, c'est bon, hey, c'est super bon. Luke Cage, ah, oh, Luke Cage, c'est pénible. Jessica Jones. J'ai trouvé ça super intéressant.
Ça, c'était bon.
C'était vraiment fucking bon, puis c'était. Ça m'a fait réfléchir. Ben,
t'as trouvé Luke Cage pénible?
Oui, Luke Cage. Par bout, j'ai trouvé bon, pénible. Même.
C'était bon, mais c'est parce que c'était comme du blaxploitation.
Oui.
Mais
oui.
Ça, ouais, mais c'est ça, mais check ça, OK?
Mais c'est ça le but de Luke Cage.
Ouais, ben, ouais, mais c'est une lettre d'amour à Harlem aussi, là. Ben oui. Luke Cage, beaucoup, là.
Mais tu vois, le point de Milter de dire Riverdale, il aurait pas appelé ça autre chose, ça aurait été le fun. Le fait que Luke Cage est un hommage à blaxploitation, je comprends.
Mais c'est
que...
le comics qui n'est un à la base
ben,
aussi.
Oui, sauf que. Je trouve que c'était trop.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'était trop. On cherche les cheap laughs, on cherche telle affaire, puis le kit. Puis là, tu sais, t'as Daredevil qui est très sérieux, très dark, très gritty. T'as Jessica Jones qui est très intellectuelle, très actualisée, la femme moderne, qui est forte, puis telle affaire, puis il est arrivé des affaires dans sa vie, puis elle n'est pas en contrôle de son corps, elle n'est pas en contrôle de telle affaire. Puis après ça, t'as Iron Fist qui arrive, puis qui a fuck all. Tu sais, c'est un blanc bec qui s'est perdu au Tibet, puis que finalement, Chris, j'aurais dû écouter Seven Years in Tibet avec Brad Pitt, je pense que j'aurais eu un meilleur.
Ouais, mais Brad Pitt, il pointe pas le Power of the Dragon.
Ah, mais fait que je reviens à dire que c'était le Defenders que je me colissais le plus, puis le show m'aide certainement pas à m'intéresser à ça. Puis ça m'a même fait me poser des questions. J'ai pas fini. Je vais le finir. Je vais me forcer à le finir. Mais ça me fait me poser des questions parce que là, j'ai peur de la série Defenders qu'il va y avoir après où ils vont prendre l'ambiance de Luke Cage qui a pas l'air à fitter pantoute avec l'ambiance de Daredevil qui clash déjà avec Jessica. En fait, Daredevil et Jessica Jones fit bien ensemble. Iron Fist va fitter avec tout le monde parce qu'il n'y a pas de petite colonne puis c'est un show de merde. Pis t'as Luke Cage qui est comme weird, drôle,
ben Luke
bizarre.
Luke Cage, fait dans Jessica Jones.
Oh! Dans plusieurs sens.
C'est ça.
Mais, ouais, ouais. Mais tu sais, l'ambiance fait mal. Fait que, en tout cas, Iron Fist, écoutez-le si ça vous tente, mais Netflix, je trouve qu'ils ont des séries. Tu sais, j'avais parlé de 3%, qui était la série portugaise qui avait investi là-dedans, puis le kid, j'ai trouvé le fun. J'ai écouté les deux stand-up de Dave Chappelle.
J'ai pas écouté encore.
Dave Chappelle, il a pris de l'âge, puis je suis content que Dave Chappelle, il revienne, puis qu'il fasse de l'humour. J'en avais parlé quand il était à SNL. Il revient, puis il fait des astuces parallèles de fou. C'est pour un public averti. Dave Chappelle est devenu
est
un peu plus... ben, il est nécessaire.
Il est nécessaire maintenant.
Puis il est devenu un peu plus amer, je trouve, en vieillissant, dans son humour, mais il brasse la cage. T'sais, voire même à le dire, pendant son show, il dit... Tu sais, il fait une joke à un moment donné, je me souviens même plus ça à propos de quoi. Puis il dit carrément à quelqu'un dans l'audience, il dit, écoute, si t'encaisses pas ça là, il dit, tu vas trouver le reste du show pénible, mon gars. Là. Fait que ça c'est comme la petite actualité. Il y a du bon stock sur Netflix, mais je trouve que, tu sais, entre Riverdale,
non, mais je peux pas dire que
la franchise
bon.
Archie, puis Iron Fist, ils sont rendus à gratter le fond du baril de Marvel pour nous faire de quoi.
Mais au moins, ils respectent la franchise.
Ah, puis ben, c'est-tu, je sais même pas, je connais pas la franchise.
Oui, bon, ben, je l'ai pas écouté encore, mais t'as le dire dans le premier épisode.
Mais le vrai sujet d'actualité, parce que là, je dérape un peu, mais Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda / la controverse / le backlash internet, puis ça m'a fait réaliser un paquet d'affaires, puis c'est sûr, là, il y a du monde qui écoute, les auditeurs du podcast vont dire, André, tu as un peu tu prends pour acquis Mass Effect, t'aimes ça, tu vas le défendre jusqu'à la vie puis à la mort. Non. J'aurais pu être excessivement déçu par Mass Effect Andromeda. Par contre, il y a un problème grandissant, je trouve, dans l'industrie du jeu de vidéo. Puis c'est pas juste dans l'industrie, c'est dans la communauté des gamers aussi. Mass Effect représente très bien ça. Le jeu sort, a des critiques très mitigées parce qu'on questionne qu'il y a des bugs. Il y a beaucoup de bugs. Puis là, toutes les critiques qui sortent, il y a des bugs. L'animation faciale est dégueulasse. Là, ça fait des memes qui sont très drôles sur Internet. Il y a plein de bugs, il y a plein d'affaires de même. Et ce que ça fait, c'est que ben, les entitled gamers, donc les gens qui trippent sur Mass Effect d'habitude, disent « Ben moi, je le jouerai pas, c'est buggé. » C'est les mêmes animations qu'en 2007. J'adorais le jeu en 2007 avec ces animations-là, par contre, puis l'immersion était très facile pour moi d'embarquer dedans, mais en 2017, c'est inacceptable que les animations soient comme ça, puis ça m'empêche d'embarquer dans l'immersion d'un jeu, fait qu'il y a déjà une contradiction.
Ouais, mais quand tu viens de jouer au dernier Call of Duty, tu
ben
fais
ouais.
comme « Oh! »
C'est
attention.
Ça qui arrive. Ou quand tu le compares à Witcher 3, puis etc. Fait que long story short, j'ai quand même joué à Mass Effect Andromeda. Je suis rendu, j'étais en vacances la semaine passée, fait que j'alternais entre études, ménage et Mass Effect. 38 heures dans le jeu. L'immersion est excellente.
Une semaine de congé seulement?
Oui, une semaine de congé, mais j'ai joué comme un hostie de mon gars. Je sais pas pourquoi. J'ai rembarqué comme dans le temps. Quand je suis. Tu sais, ça faisait longtemps que j'attendais. Max, on joue souvent en ligne ensemble. Puis je disais à Max, Chris, j'avais le gaming jitter, tu sais, genre je sais que Mass Effect s'en vient, je veux pas acheter 80$ Horizon Zero Dawn puis le mettre de côté dans une semaine, mais je veux jouer à quelque chose. J'ai été rassasié. Mass Effect qui a un gros côté d'exploration, une immersion, une histoire quand même excellente. Je suis juste déçu de voir qu'il y a un paquet de monde qui ont bâché ça, puis je veux juste prendre un peu de moment pour donner mes 2 cents là-dessus. Il y a un gros changement dans l'industrie du jeu vidéo qui s'en vient, puis je veux juste qu'on prenne 30 secondes ensemble pour réaliser des choses. Les gens qui sont plus jeunes, qui écoutent, ben vous vivez dans un ère de gaming qui est très différente dans l'ère de gaming que moi j'ai connu en commençant à jouer. Je vous donne un exemple. En 2017, ben présentement, là, essayer un jeu vidéo, à part le démo ou un trial, ben il n'y a plus grand monde qui vont faire l'effort d'aller louer des jeux. Fait qu'autrement dit, ben il y a un paquet de monde qui réalise pas parce que vous avez pas été habitué de le faire, comme les vieux de la vieille on faisait, pogner notre bicycle puis aller louer une cassette au club vidéo puis revenir à la maison. Ben je vous comprends d'être amer puis d'être craintif parce que vous devez dépenser 90$ à chaque fois pour vous procurer un jeu, puis c'est quand même assez dispendieux. Par contre, ben ça se fait encore louer des jeux, ça se fait encore essayer avec le SharePlay. Par la console de votre ami qui l'a acheté, passer un peu de temps avec les jeux puis donner la chance aux coureurs. Fait que, ce que ça fait, c'est que présentement, les critiques de jeux vidéo ont pris tellement d'importance que je trouve que c'est en train de scraper un peu la perception des jeux, puis ça empêche les gens d'essayer des produits. Tu sais, je vous donne un exemple, là, les gros sites ont donné des codes de 7, de 7.5, de 6, de 8, en raison d'animation faciale pour un jeu. Fait qu'on s'entend là, que le Metacritic était pas super bon, Rotten Tomatoes pour les films, la même chose. Fait que le monde, beaucoup de gens vont se fier à des critiques comme ça. Des bugs, il y en a dans Mass Effect. Des bugs, il y en a dans les autres jeux.
Mais c'est vrai qu'ils ont engagé une cosplayer qui a pas aucune expérience pour faire les animations faciales?
C'est même pas une fille.
J'en ai aucune idée.
Non, ok,
C'est le supposé lead designer qui a travaillé sur les animations dans Mass Effect Andromeda. C'est un gars. Puis, il s'est fait ramasser ses réseaux sociaux parce que c'est un anti-blanc.
Ah, c'est lui,
En tout cas, la personne que je ne me vois pas complet, excusez-moi. Mais c'est le même genre de personne qui fait du Mass Critics sur tous les blancs, sur les cisgenres, puis tout ça. Son Twitter est rempli de ça. Puis là, tous les aspects qui étaient pas bons de l'animation dans Mass Effect, le fait que ton personnage n'a pas nécessairement une peau assez blanche, que les personnages sont pas trop ci, sont pas assez ça. Mais tout ça sur le fait que ce gars-là, c'est genre un social justice warrior, il s'est fait ramasser sur Internet. Je pense qu'il s'est même fait dox. Toutes les informations personnelles de sortie sur Pastebin, ce genre de choses-là. Le gars, il a fallu genre qu'il se calme, qu'il fasse bien des affaires sur son Twitter.
Mais tu vois, ça, c'est un problème en soi. C'est un problème d'image de compagnie puis de personne qui a posté ses convictions sur son Twitter. Puis que là, ben, suite à quelque chose qui est arrivé, les gens sont retournés vers lui. Mais ça, c'est un problème en soi.
Non, mais parce que ce qu'il disait, c'est plus qu'il avait comme à la dernière minute enlevé des affaires, des animations ou de quoi. Fait que là, je pensais que c'était peut-être ça.
Sais-tu?
Le lien. J'ai pas vu encore.
Ça se peut. Mais même là, honnêtement, là, faut arrêter de s'insurger contre
ça. C'est si pire que ça.
C'est pas si pire que ça. J'en ai eu des bugs. J'en ai eu. Écoute, un moment donné, je suis en train de parler à un personnage, puis il est à côté de moi. Fait que, tu sais, la caméra, là, ça a bugué. Tu sais, j'y parle, il est plus supposé d'être là, mais il est encore là, puis il est en avant
de
moi.
C'est quand même pas si pire, parce que ça, c'est juste en termes de conversation que ça l'arrive. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'ai expériencé, je veux pas faire de spoiler dans le jeu, à un moment donné, je me fais attaquer, puis j'ai un de mes NPC, qui est la fille, que je me souviens jamais son nom, et comme ça, straight, comme ça, elle fait sa position musclée, elle bouge pas, elle se fait tirer, elle perd pas de vie, elle est juste jamais là, puis y'a rien qui se passe. Fait que je suis tout seul, avec mon deuxième NPC, assis tout pété, joue à hardcore, puis elle reste allée là, puis y'a rien qui se passe.
Mais tu vois, regarde, ça peut arriver. Ça peut arriver, puis il y a tellement de variables dans les jeux, puis ça, j'essaie pas d'excuser la compagnie, mais moi, personnellement, j'en ai eu 2-3 petits bugs dans même claquette, mais ça n'a pas enlevé la magie du jeu, ça n'a pas enlevé du reste.
Mais ça arrive dans plein de jeux aussi, là. Moi, je joue à Dead Rising 4, il y en a des fois des bugs nowhere de... Puis je trippe pareil. Là.
Je trouve qu'on est rendu juste un peu trop... On fait une confiance aveugle aux critiques. Tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, le film Power Rangers, t'as beaucoup de monde qui ont donné des commentaires négatifs à l'égard du film Power Rangers. C'est pas respectueux, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis t'as une genre de minorité non-verbale qui ont aimé le film puis qui font juste pas perdre leur temps à aller trash talk sur le film sur internet. Fait que, tu sais, Mass Effect Andromeda, honnêtement, là, puis tu sais, le gamer moderne, là, t'as un de tes chums qui l'a acheté puis qui te dit que c'est de la merde, ben au pire, emprunte-y puis essaye-le pareil. Tu sais, donner une chance au produit, il y a des moyens de jouer pour pas cher, il y a des moyens d'essayer des affaires. Il y a eu des trials en plus qui ont été disponibles. Tu sais, je pense que faut arrêter d'être. Comment je peux dire ça? Faut arrêter de faire une confiance aveugle aux critiques. T'sais, c'est pas parce qu'IGN disent qu'un jeu est pas bon que ça veut dire que le jeu est pas bon. Puis ça veut pas dire que tout le monde va trouver un jeu pas bon. Puis faut l'essayer. Regardez, Chris, il y a Twitch qui existe. On est en train de streamer live là sur Twitch. Puis il y a un paquet de monde qui joue présentement à Mass Effect sur Twitch. Allez voir. Ça, Chris, on dirait là, depuis No Man's Sky, tout le monde a peur d'acheter un jeu. Puis je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait berner avec No Man's Sky. Mais dans les dernières 20, 30 ans, peu importe, là, c'est arrivé combien de fois qu'un jeu était aussi controversé que ça? C'est arrivé une fois. C'est arrivé combien de fois qu'il y a eu des jeux buggés, mais qui étaient bons pareil? C'est arrivé plein de fois. Fait que tu sais, je trouve ça juste dommage. Le monde critique beaucoup. Le monde s'en verbal négativement. Puis Chris,
Mais il y a les deux sens des fois à ça, comme... c'est quoi le nom du gars, là, le gars web qui fait des vidéos sur YouTube, Jimquisition?
Je le connais pas, lui.
Ah, c'est vrai que je me souviens plus. C'est Jim quelque chose, en tout cas. Là. Le gars, c'est gros popular critic là, t'sais, de jeux vidéo, puis tout. Puis c'est pas un tout nu, là, il travaillait dans l'industrie, puis tout. Tu sais de quoi il parle? Il a donné une note, je me souviens plus c'est combien, mais genre 7.58 à Zelda. Le nouveau.
Ah, puis il s'est fait ramasser.
Il s'est fait ramasser. Il y a du monde qui a essayé d'hacker son site. Puis tout. Fait que, tu sais, ça va comme dans les deux sens. Dans le sens que lui, il donne une critique peut-être un peu plus harsh que d'autres mondes. Parce qu'il critiquait vraiment certains points. Il dit les armes avec de la vie, on n'aime pas ça, personne. Tu sais, puis des affaires de même. Puis il s'est fait ramasser. Fait que, tu sais, ça va dans les deux sens. Soit tu écoutes les critiques, puis ils disent tout, c'est de la merde ou de quoi, puis tu l'essayes pas. Ou que t'es tellement vendu à quelque chose que t'es pas capable de voir des défauts, que tu bâches la personne qui te met les défauts d'en face.
Tout ça part, je pense, d'un problème qui est arrivé puis qui est très récent, où on a tous une tribune puis tout le monde veut donner son opinion, mais c'est pas tout le monde qui est qualifié. Ça a l'air con, là, mais il y a des gens qui font des études en journalisme. Il y a des gens qui ont des études pour pouvoir... Comment je peux dire
comme
ça?
Richard Martineau.
Tu sais, oui, c'est pas tous des bons exemples, mais il y a des gens qui vont avoir des études là-dedans pour comprendre qu'il y a une manière quand même de parler publiquement puis d'adresser certaines choses. Puis là, tout le monde a une tribune, puis comme tu dis, c'est toujours un clash, c'est des extrêmes. C'est tout le temps, c'est de la merde ou c'est incroyablement bon, puis tu devrais avoir honte de dire que c'est pas bon. Pourquoi toujours donner son opinion comme ça? T'sais, c'est juste, Chris, essayez les affaires, faites-vous une opinion vous-même, puis le kit. Moi, ça m'inquiète.
Sans vouloir excuser ça, je pense qu'il y a quand même une explication par rapport à ça. C'est que, tu sais, plus nous, ça fait comme 30 ans qu'on game, admettons. T'sais.
Ouais.
Puis l'âge moyen du gamer vieillit d'année en année, ça repousse. C'est plus l'âge moyen, c'est pas 18 ans, c'est 34, 35 ans, je pense. Ouais. Fait que ça vieillit avec nous.
Parce qu'on a l'argent pour acheter.
Oui, mais on n'a pas le temps.
Ouais,
on n'a pas le temps, par contre. On n'a pas. Puis moi, je parle pour moi, mais je pense que c'est vrai pour bien du monde ici qui n'ont pas nécessairement le temps de mettre 40 heures sur un RPG.
C'est ça.
Puis j'ai, okay, là, j'ai le temps, mais je peux jouer à un jeu de même pendant les 6 prochains mois, genre. Mm-hmm. Je veux être sûr de ma shot. Genre.
Ouais.
Mass Effect Andromeda, parfait exemple. C'est un RPG. C'est pas un. C'est ce genre de jeu qui se finit pas en 12 heures. C'est long, c'est immersif, faut que tu y mettes du temps, il y a du lore, il y a tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, sans vouloir dire que les critiques sont bonnes nécessairement, mais tu sais, je peux comprendre la réaction de certaines personnes quand même, tu sais.
Ben, exactement.
Fait que les critiques ont leur rôle à jouer là-dedans parce qu'elles sont comme un peu les chiens de garde de genre, est-ce que ce jeu-là, ce AAA title-là, à 80$, vaut ton temps? Tu sais. Fait que mais c'est un peu une barrière entre nous et la perte de temps.
Mais je suis d'accord, mais d'un autre côté aussi.
Faut que tu fasses ta propre idée du gars. Dans le sens, je catch ce que tu veux dire. Je suis totalement d'accord aussi. Mais tu fais confiance à tes critiques. Dans un sens, tu sais, moi, j'écoute pas n'importe quel gars quand je check les reviews. Puis des fois, je vois quand. Des fois, j'écoute un review, puis je suis comme, ah fuck, c'est ce gars-là qui le fait. Genre, je m'en calisse de lui. Oh, lui, il a pas aimé ça. Je vais sûrement aimer ça, moi. Tu sais, genre, tu vois des affaires. Lui, il a des goûts comme moi. Il dit que le jeu il est bon, mais qu'il y a des petits défauts et tout, mais il dit c'est bon pareil, je vais l'essayer, je vais checker un peu comme
mais
tu disais sur Twitch.
C'est de se renseigner aussi surtout, puis tu sais, puis je suis d'accord avec toi, regarde, le même concept que pourquoi je joue plus quasiment à des shooters en ligne, du genre des Battlefield puis des Call of Duty, puis je vais jouer à Overwatch. Ben, Call of Duty, je peux pas m'investir assez dans un jeu comme ça pour être assez compétitif que le gars de 13 ans, quand il finit l'école, qui passe sa nuit puis sa vie là-dessus.
Level 10 prestige.
Qui a toutes les unlocks, les prestiges, les nouvelles armes, les affaires de même. Moi, j'arrive là-dedans puis j'ai pas les mêmes affaires. Fait que les unlock-based shooters en ligne, je peux plus m'investir là-dedans parce que d'un, je serais pas assez compétitif puis de deux, ben, je vais manger une volée. Mm. Overwatch, par contre, tous les personnages, t'as les unlocks dès le début, c'est purement cosmétique. Fait que tu peux maîtriser le jeu puis y aller là-dedans. Je suis d'accord avec toi qu'un RPG, effectivement, tu veux être sûr avant de t'investir puis d'aller là-dedans puis d'y aller. Puis les critiques, moi, tu vois, je trouve qu'ils ont un rôle qui a évolué, mais qu'eux-mêmes se cherchent une niche. Parce que ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que, je te donne un exemple, Kotaku, que tout le monde font « Ah ben oui, Kotaku ». Mais c'est un site qui drive du trafic, c'est un site qui a des clics, c'est une référence quand même dans le domaine du jeu vidéo. Mais pour moi, c'est le pire bourbier d'une certaine chose, c'est le sensationnalisme. Ils ont remarqué qu'en faisant une critique, mettons, ça peut être Mass Effect, ça peut être No Man's Sky, ça peut être n'importe quoi, puis là, tout le monde embarque sur le bandwagon parce qu'ils remarquent que s'ils font une critique négative, c'est plus facile d'aller chercher l'appel à l'émotion puis l'engagement des gens qui sont fâchés puis qui sont négatifs, puis après ça, ils surfent là-dessus. Tu sais, je t'ai donné un exemple. Il y a un article qui est sorti aujourd'hui puis ça m'a tellement fait rire. Ils parlent de la première side quest que tu pognes dans Mass Effect, justement, puis ils font cette side quest-là, puis le headline, là, c'est the first side quest, quelque chose de même, bof. Tu sais, bof, un peu écœurant, ça n'a pas vraiment de répercussion. Puis ils expliquent pourquoi.
Pis, en spoilant.
Ben, ouais, mais c'est un spoiler, mais sans l'être nécessairement. Puis j'ai trouvé ça, c'est du garbage reporting, selon
ben,
moi.
Ben, tu me fais passer de bord en disant ça, t'as vu l'article d'il n'y a pas longtemps qui disait... La plus longue et difficile side quest de Zelda Breath of the Wild te donne la récompense la plus ridicule. C'était quasiment écrit click here to see what it is, tu sais, genre.
Ben c'est ça, mais c'est qu'on est rendu que c'est du clickbait, c'est du négatif, c'est du.
Ouais, c'est mais Kotaku particulièrement, c'est du journalisme jaune de jeux vidéo.
Du clickbait
de
jeux vidéo.
Il y a bien un exemple de tu parlais de surfer des vagues, là, ben justement Kotaku qui a surfé la vague du social justice warriorism au paroxysme. Eux autres, ils mélangent gaming et sociopolitique vraiment de manière assez.
Ils peuvent aller chercher d'autres mondes que ceux du gaming.
Tu sais, même IGN, Giant Bomb, ça fait la même. Giant Bomb ont une tendance à mériter un peu plus mon respect parce qu'ils sont impartiaux puis ils passent souvent dans l'ombre. Mais tu sais, des IGN, ça fait la même. Tu sais, long story short, là, parce que je m'éternise un peu, mais que ça soit Mass Effect ou n'importe quoi d'autre, là, Chris, essayez les dons, les jeux, là, honnêtement. Là, avant de bâcher puis avant de capoter, il y a plein de moyens de pouvoir les essayer. Louez-le, passez-vous-le, essayez ce SharePlay, va downloader un trial, écoute sur Twitch, check sur YouTube.
Et access.
Tu as toutes les informations sur Internet pour voir si le jeu, tu vas l'aimer ou non.
Exactement.
Puis moi, la raison pour laquelle, personnellement, je me fie plus à aucun site de critique, que ce soit Kotaku, Wired, que ce soit IGN, j'ai remarqué souvent, comme tu disais, il y a du monde qui font des études en journalisme pour donner une critique ou faire un article. Plus souvent qu'autrement, tu vas te rendre compte que sur ces sites-là, souvent, ça va être genre independent writer ou ça va être collaborateur avec lui. Le gars, il travaille pas vraiment, il écrit pas vraiment pour eux. Il le fait juste une fois de temps en temps, puis tu te rends compte que c'est un monsieur, madame, tout le monde qui est pigiste ou qui a décidé de se faire un blog, qui donne un article sur son point de vue. Puis le gars, il est pas impartial pour 200, il va selon ses goûts. Comment tu peux donner une bonne critique de quelque chose dans cette façon-là?
Ben, c'est parce que, direct en partant, si le but d'un article est de donner une cote puis d'influencer l'achat ou la décision de quelqu'un versus informer sur un produit, moi, j'ai un problème avec ça. T'sais,
surtout quand il y a eu le jeu gratis.
Ben, t'as ça, puis deux, tu sais, garde ton but, c'est d'informer. T'sais, est-ce que le jeu, il y a ci, est-ce qu'il y a ça? Donne les bons côtés, donne les mauvais côtés aussi. T'sais, je dis pas qu'il faut pas le dire que le jeu, il y a un bug. Sauf que d'un autre côté, tous les fucking jeux ont des bugs ces temps-ci. D'un autre côté, ben, est-ce que les contrôles sont bons? Est-ce que c'est les graphiques sont corrects? Est-ce que l'histoire est bonne? Est-ce que l'immersion est là? Moi, je me souviens, dans le temps, là, j'achetais AGM, puis j'achetais des magazines, puis on parlait de la musique des jeux. Hey, la musique est bonne, elle soutient bien l'ambiance, des affaires de main. On n'en parle plus de musique. On en parle plus. Maintenant, on va parler justement, on va gratter le bobo, on va donner le problème, puis on va y aller vraiment en masse là-dedans. Puis c'est ce que je trouve un peu plate. Puis même encore là, ça c'est mon opinion à moi. Il y a peut-être des gens qui vont dire que le journaliste de jeux vidéo est à son apogée, son sommet, c'est la meilleure chose qu'il y a eu dans les dernières années, mais selon moi, on est en train d'en reperdre, puis on fait beaucoup trop confiance aveugle à des gens. Fait que c'était mon actualité cette semaine.
Good.
Max?
Ben, mon actualité, écoute, pour les derniers jours que j'ai navigué sur Internet, j'ai jamais autant facepalmé de ma vie. J'en ai mal à la tête, honnêtement. Vous l'aviez sûrement vu passer, ça date de jeudi passé. D'ailleurs, t'as même commenté là-dessus. Est-ce que j'appelle le hashtag « Nous sommes le Webgate
» Ok, ça c'est pas la vidéo où tout le monde chante «
Nous sommes le web, nous sommes Internet. » Fait que okay. C'est P.O. Baudouin.
Y a-tu payé des copyrights à Michael Jackson?
Je sais pas.
Sûrement pas.
Moi, moi j'aimerais savoir en partant, c'est qui P.O. Baudouin?
Je sais juste qu'il travaille pour Vlog avec okay. Dominique Carpin. Okay. C'est la seule chose que je savais de ce gars-là.
OK.
Puis, la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est qui m'étonnerait parce que ça a fait quasiment le tour au complet, c'est quelques vlogueurs, blogueurs, du monde qui font des vidéos sur YouTube, qui se sont regroupés pour faire un genre de mini-sketch au début de personnes qui rient entre eux autres dans un salon trop catchy, qui regardent dans celui-là et fait comme « Hey, je me suis fait dire que je suis pas beau, ferme ta gueule. Ah, c'est bien gratuit! » Et voilà, on part une chanson sur Internet sur l'intimidation sur les internets.
OK, fait que le but de faire ça, c'est de conscientiser les gens envers l'intimidation sur Internet.
Soyez gentils avec nous, c'est pas fin quand tu dis que t'aimes pas mon contenu.
Par des personnes qui ont consciemment fait le choix de publiciser leur vie et leurs opinions, mais qui essaient de conscientiser le monde de pas... Tu sais, je peux comprendre, OK, tes lettres, c'est un commentaire inutile.
Oui, effectivement.
Mais j'ai le droit de le penser et de te le dire, vu que toi, tu m'agresses en postant ta vie dans mon feed à longueur de cette journée, non?
Ben, ouais, en fait, t'es pas obligé d'y suivre. Fait que déjà là, c'est quand même
ben,
pas si
pire. Même quand t'y suis pas, ça trouve le moyen de
ouais, parce
se rendre avec
les
astuces
sponsors que tu peux avoir sur Facebook.
Je trouve ça maladroit
ouais,
un peu comme manière de faire les choses. C'est premièrement, c'est justifier que ça existe. C'est reconnaître l'existence de l'intimidation des YouTubers. Puis je dis pas qu'ils ont pas le droit à ça, là. C'est correct.
Non, ça, on le sait
quand même. Mais tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est comme si, mettons, tous les podcasteurs du Québec se regrouperaient ensemble pour faire une vidéo pour dire que, ben, on se fait traiter qu'on n'est pas un média, on se fait dire que si, puis on se fait dire que ça. Je trouve ça weird un peu.
C'était pas un self-fulfilling prophecy, en fait. C'est qu'ils font un vidéo poche sur l'intimidation, sachant très bien qu'elle allait se faire ramasser, puis là, la preuve qu'on se fait intimider, là. Ouais.
Mais c'est dégueulasse. C'est, je sais pas si vous l'avez écouté au complet, la vidéo. Moi, je me l'ai tapé du début jusqu'à la fin.
C'est qui la fille avec les cheveux roses qui a de l'air beaucoup trop maquillée? Ou c'est un gars?
Non, c'est une fille, puis okay. Elle est over-maquillée, elle doit être pas toxée, elle a pas d'émotion d'en face. Elle est comme...
Mais elle a le droit.
Mais elle a le droit. Elle a le droit, absolument. Je sais pas c'est qui.
Ouais, elle a le droit, juste.
Honnêtement, il y a deux personnes que j'ai reconnues dans cette vidéo-là. C'est Cam Grandbrune, parce que j'étais habitué de la voir avec Fred. Puis PL Cloutier, que si le monde ne connaisse pas, c'est. Salut, c'est PL!
Mais est-ce qu'on est peut-être un peu trop vieux pour être l'auditoire de ce vidéo-là?
Oui, non.
J'ai aucune crise d'idée, c'est qui ce
monde-là? Non, moi je te dis non.
Je connaissais juste Cam, comme il dit.
J'ai l'impression. Ben, j'ai peut-être qu'on est trop vieux, mais j'ai peut-être l'impression que c'est parce qu'on n'est pas le genre de personnes qui vont aller chercher en général. Tu vas voir le monde qui vont aller leur écrire comme quoi, oh, leur vidéo, c'est tellement bon, c'est tellement vrai. Si tu regardes, c'est
comme
des ma tante et des mon oncle.
Pourquoi tu veux écouter ça?
Ben c'est un peu dire. Gars. Non mais je me questionne
comme
un peu là-dessus.
Janvier puis son chum.
Qui?
Pourquoi?
Je sais même pas c'est qui ça.
Mais oui, la fille là, ils ont comme 28 ans puis t'es comme pour de vrai, ils ont pas 44.
En fait, je sais vraiment pas c'est qui. Mais
comment?
Je sais pas.
Marie-Ève Janvier, excuse.
Non mais pour vrai,
puis son chum.
Je connais pas.
Il chante.
Je sais même pas c'est qui. Je m'excuse. Sortez-moi une photo de
toi.
Mais non, mais, ah, ok, oui, là, bon, okay, là, je viens d'allumer. Bon, ok, excusez.
Non, mais Chris, la comédie musicale.
Mais non, mais tabarnak, je suis-tu le public cible de ça?
Ben,
je sais pas.
Pourtant, ils ont 28 ans.
Eh hey boy.
Ben, okay. C'est ça qui est triste.
Non, mais cette vidéo-là, il est weird.
Il est cringe as fuck, la vidéo.
C'est juste
désolé,
cringe.
Mon but, c'est pas d'insulter quiconque a participé à ça, mais c'est cringe. Je l'écoute, j'ai un malaise quand je regarde ça, je le prends pas au sérieux. Puis le pire, c'est qu'il y a du monde qui font partie de cette gang-là, qui sont allés dire, en plus, si tu regardes dans les commentaires, pas sur YouTube, mais sur Facebook, il dit « Ouais, mais tu sais, ce qu'on dit dans la vidéo, c'est pas nécessairement vrai, c'est juste un sketch, mais c'est pour démontrer la réalité de la chose, prenez-le pas mal. »
C'est pas vrai,
mais on veut parler de la réalité.
On va se dire, les insultes sur Internet, il y en a de toutes sortes.
Ben oui.
On en
j'en vit. Reçois à longueur
c'est
de
ça.
Journée.
C'est ça, Milter, c'est l'exemple parfait. Moi-même, je me suis fait dire que je méritais de me faire pendre par les couilles. On me menaçait de mort sur Internet.
Souvent.
Mais c'est le P.O. Baudouin, qui s'est fait dire « Tes cheveux, ils ont l'air de Spock ou tu chantes mal, ferme ta gueule », qui lui va me dire « Ah, oh, ça, c'est de la super intimidation », puis il va faire une toune là-dessus.
C'est une satire maladroite, puis moi, ce que je trouve le plus cringe-worthy là-dedans, c'est que
« We are the P.O. world,
Baudouin. USA for Africa »,
excusez,
tu sais, qui est une toune super puissante avec un message qui était vraiment comme nécessaire dans ce temps-là. Puis là, on prend une toune quand même assez iconique, qui est sorti dans un moment où on en avait besoin, puis on dénature un peu ça. Je veux pas faire du cause-shaming, mais est-ce que les YouTubers québécois nécessitaient se font tellement intimider que ça nécessitait vraiment une chanson pub, comme ça?
Ouais, mais parce que là, on compare ça avec la famine en Afrique, essentiellement, parce que la toune était pour ça. C'était USAID pour la famine en Éthiopie, quelque chose comme ça, dans les années 80.
Ben, exactement. Fait
que là, c'est comme, nous autres pauvres YouTubeurs québécois, aidez-nous. Puis là, par exemple, t'as une Biafra,
j'avoue que P.O. Baudouin, il a pas de l'air à manger beaucoup. Il est tout maigre. Non, mais il est tout maigre, si.
Non, mais moi, c'est juste ça qui me fait capoter.
Il est beau, par exemple, sa face.
Ouais, il est good looking.
Il est comme un mais... Ken, un Barbie doll Ken, un Ken doll androgyne, Meg.
C'est même pas un compliment.
Ben là, il a les mêmes cheveux que Ken.
Ouais, mais c'est moderne, là, fait que c'est bien correct.
J'espère qu'il est pas même fou.
Mais, somme toute, c'est cringe, ils l'ont fait, ils se sont fait critiquer, pas nécessairement méchamment, je vais dire, c'est comme, il y a du monde qui leur a dit, c'est cringe que vous avez fait, c'est malaisant, puis ils voient ça comme intimidation. Le journal à Montréal dans le sac de chips, mais c'est justement Jay Saint-Louis sur Internet qui a rapporté ça.
Quand t'es juste pas d'accord.
Tu veux juste dire non, une madame qui s'appelle Isabelle, que tu peux voir si tu vas voir l'article sur le sac de chips, ils considèrent ça comme étant d'intimidation.
Elle a mis une banane.
Ah, mais ça, moi, je vais te comparer ça au saucisse à hot dog puis au pain, OK? Puis là, tu vas te dire, je m'en vais où avec ça?
Le film,
oui. Ils vendent des saucisses à hot dog en paquet de 12 puis le pain en paquet de 6. Fait que tu sais, il y a comme une gamique pour que tu continues de manger des hot dogs perpétuellement. Oui, okay?
Ça, c'est le journaliste.
Ben, tu fais une vidéo sur l'intimidation puis tu te fais intimider par ton vidéo. C'est comme un cri à l'aide de genre, tu sors dans la rue puis tu. Tu sais, c'est quoi le mème, là, que le gars en basic qui roule, puis là, la case 2, il se met un bâton dans les roues, il plante, puis après ça, il chiale la case 3. Cette toune-là, cette vidéo-là, c'est ça. C'est genre, on va faire une vidéo contre l'intimidation, on se fait intimider, puis là, on bitch contre l'intimidation, du vidéo contre l'intimidation, puis...
Pis c'est toute une weird, communauté blanc-triarcale qui fait une vidéo en lice.
C'est vrai, pareil. N'allons pas dans cette direction.
Mais ça fait peur un peu, parce que... Puis là, ben, ça a été enlevé de Facebook, une chance.
Ils l'ont enlevé pour le...
Ouais, les choses, les commentaires, puisque parce que P.O. Baudouin...
Ah, ils ont enlevé les commentaires, pas le vidéo.
Non, le vidéo est encore là. Okay. Mais les commentaires qui ont suivi, il y a eu des screencaps, des messages qu'il a reçus. Oui. Puis au lieu de cacher la photo, le Charles nom Crétois. De mon... Ouais, je vais pas dire le nom, mais après que tu le dis...
Il est content, Charles,
c'est ça, Charles est content. On te salue, les Charles, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Sur la page de P.O. Baudouin, qu'il y a des milliers de personnes qui suivent, un message de Charles Croteau qui marque exactement ce que P.O. Baudouin lit sur son sel au début.
Première
chante mal, aussi. Ferme ta gueule. Il a juste écrit ça, comme c'est un inside joke par rapport à ce qui est passé au début du vidéo.
Il l'a pas catché.
Il l'a pas catché, puis il a vu ça comme si c'était de l'intimidation. Il a screencapé ça avec le nom de Charles, avec sa photo.
Le Charles gars, a 16 ans, pas ça.
Ouais, il a 16-17 ans, le gars. Ouais, il s'est sûrement fait ramasser dans son inbox par toutes les petites matantes, monsieur, qui aiment bien ça, cette vidéo-là. Puis comment ça a fini? Mais quand tu regardes ces personnes-là, tu réalises que, OK, on dénonce l'intimidation, ils en font eux-mêmes. Quand tu regardes sur le monde qui les défendent, quand tu vas voir leur Facebook, parce qu'il y en a des fois qui écrivent des affaires publiques, ah ben, c'est les mêmes monsieur, madame, tout le monde qui posent des affaires contre l'islam radical, puis ce genre de niaiseries-là. Fait que ceux qui défendent l'intimidation sont les premiers en enfer. Fucking ironic.
Ce qui est assez débile, là, c'est que dans le même sujet, on est passé d'un vidéo YouTube à genre de l'islam radical revendiqué. Puis ça, c'est malheureusement l'internet. Les médias sociaux et l'internet en 2017. On est parti d'avoir créé un outil.
Tout fini avec l'islam.
Non, mais c'est débile. On est parti avec un outil qui était supposé de révolutionner le monde de la recherche.
Rapprocher les gens,
partager les connaissances, des trucs comme ça. Puis on est en train de s'auto-anéantir. Dans notre tête, sans même se parler. Puis il y a des gens qui sont rendus qu'ils ont des problèmes de vraie vie en quittant leur domicile, en se promenant dans la rue, parce qu'ils peuvent se faire attaquer ou peu importe, ou intimider. Tout ça basé sur un outil qui nous sert à connecter. Là. Fait que tu dis ce que tu penses, puis t'as des gens qui vont te menacer de venir te casser à la gueule, puis le quitte.
Puis toi, c'est... tu dis publiquement, t'es où partout automatiquement?
Ouais. C'est ça! Ah, c'est ça! JP, bravo à vous autres pour votre initiative avec Crypto-Québec, parce que honnêtement, vous êtes créé une industrie qui va avoir... tu sais, c'est une industrie de service, on s'entend, là, conscientiser les gens. Vous allez avoir de la job pendant longtemps, vous autres, avec ça. Là.
Une bonne sécurité d'emploi, je pense, parce que l'avenir est sombre en tabarnouche à ce niveau-là. Parce que
non, lucratif, mais c'est ça, c'est votre affaire. Mais ça, lucratif.
Attends, un OSBL sans but lucratif, ça veut juste dire que t'as pas le droit de faire le profit. Ça veut pas dire que tu peux pas te verser de salaire.
Ok, ouais.
FYI.
Ok.
non, mais.
Même, c'est correct.
Bon, on va fermer notre parenthèse immédiatement sur l'aspect financier de mon entreprise, mais.
Non, mais c'est
vrai, puis c'est ça qui est ridicule, c'est que. On se crée un panopticon, en fait. C'est que panopticon, c'est le principe d'une prison, c'est que tu sais pas si t'es regardé ou non.
Si je pensais que tu parlais des méchants des Transformers.
Mais c'est une forme de méchanceté.
Des opticons, ouais. Okay.
Fait que ouais, non, c'est ça. Fait que c'est oui, c'est pervers comme développement de l'humanité. On est à 2 degrés de séparation de tout le temps le point, l'équivalent du point Godwin maintenant, c'est le point Islam, j'imagine. Là, parce que maintenant, c'est plus hot de traiter quelqu'un d'Adolf Hitler. Maintenant, c'est juste de dire, ouais, on sait bien, toi, t'aimes ça, les musulmaniens.
Ben, je me fais traiter d'Hitler.
Moi, j'aime beaucoup. Quand tu dis que l'avenir est sombre, j'ai tendance à te croire. Puis moi, ça me dépasse tout ça. Tu sais, c'est peut-être mon aspect positif dans la vie où je suis tellement tout le temps content de rencontrer des gens et de jaser avec eux autres. Puis c'est rendu que moi-même, ça me crée une paranoïa où mon employeur va-tu utiliser quelque chose que j'ai dit en ligne dans 3 ans contre moi? Est-ce que mon podcast va menacer mon emploi? Ou, tu sais, il y a un paquet d'affaires de même. Puis c'est fou. On a comme créé un système qui est, selon moi, enclin à s'auto-anéantir dans quelques années parce que c'est tout le temps sombre. C'est tout le temps négatif.
Bon, on l'a pas créé, mais on l'alimente.
Ben,
on l'alimente, ouais, sérieusement. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui force quelqu'un à aller sur Facebook et mettre des photos de où il va en vacances, tout ça, mais on le fait quand même. Là, pour quelles raisons sociologiques, on verra. Mais...
Psychologique, peut-être.
Ouais, psychologique aussi. Mais c'est, ouais.
Max, est-ce que tu avais terminé avec ton sujet?
Sur ce sujet-là, oui.
Génial.
Sinon, le mi-sujet, je ne vais pas y revenir longtemps parce qu'on a déjà parlé un peu d'un rant par rapport à Mass Effect Andromeda. Ils ont annoncé aujourd'hui officiellement la sortie prochaine de Destiny 2.
Ooh.
Donc, ceux qui connaissent pas Destiny en général, un jeu sorti par Bungie il y a 2 ou 3 ans de ça, qui a pas fait l'unanimité au niveau des gamers parce que c'est un jeu qui manquait un peu de contenu. Il y a eu 3 DLC, il y a eu 2 expansions, puis le monde se sont plaint que c'est après les 3 DLC puis au moins 1 expansion que t'as commencé à avoir un jeu complet. Donc, il a annoncé la sortie de Destiny 2. Moi, je l'ai aimé, Destiny 1, personnellement.
Moi aussi.
Ouais, je sais que tu l'as aimé. Mon ami Joël l'a aimé. Mon frère, il joue encore aujourd'hui. C'est un jeu qu'on a passé beaucoup d'heures dessus. On l'a rentabilisé à 200%, ce jeu-là.
Moi, je veux dire, je l'ai beaucoup aimé. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'il faut que je fasse des genre 12 heures en ligne là, dans les... J'avais plus le temps là, pour... Comment tu appelles ça?
Les raids?
Les raids, ouais.
Les raids, 1h30, puis t'as passé à travers.
Ouais, mais pas la première fois.
Non, pas la première fois, mais... Somme toute, le jeu était intéressant. Donc, il a annoncé la sortie du 2. Puis, un peu comme Mass Effect Andromeda avec les critiques sur Internet, le monde se sont mis à le bâcher. Il y a bien du monde qui sont contents, c'est quand tu regardes les commentaires, mais tu réalises vite que la majorité des commentaires, c'est du monde à la « Oh, ça va être de la stick de marre, le jeu n'aura pas de contenu, je ne paierai pas 80$ pour ça. » Juste de mettre une mise en contexte dans la situation... Quand vous chialez par rapport au fait qu'il va y avoir des DLC, des expansions, qu'il manque de contenu, que ça va coûter 80$, puis 40$ du DLC, etc. Si vous réalisez comme du monde, c'est la majorité des AAA games qui ont sort depuis les 5-6 dernières années. C'est toujours comme ça. Je comprends pas pourquoi que c'est un problème avec Destiny, mais que c'est pas un problème, admettons, avec Dragon Age Inquisition, c'est pas la même chose avec Call of Duty ou tous les autres jeux du genre.
Battlefield, il y en a plein.
Max, c'est juste que le vrai problème de ça, c'est les gens qui veulent pas prendre la responsabilité de ça. Si quelqu'un vend quelque chose, c'est parce que quelqu'un achète quelque chose.
Absolument.
C'est juste un trailer à date. Là.
Oui,
c'est carrément. Ça. Ils ont pas annoncé.
On sait pas c'est quoi qu'il va avoir comme gameplay. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à l'instar, qui était un console exclusive, là, c'est rendu avec un PC à cette heure. Tu vas pouvoir jouer à Destiny sur PC.
Ben, ça, c'est cool.
Oui, il va aller chercher une série de gamers de plus qui voulaient pas s'acheter une console juste pour l'essayer.
Carrément. Puis, mais tant mieux.
C'est juste un teaser trailer avec un des personnages bien populaires de Destiny 1 qui est dedans. Puis le monde a trouvé le moyen d'en faire un Ben Wangen de chialage incroyable sur Internet.
What ben, for? Écoute, excuse-moi, pourquoi? Puis de deux, ben, allez nous le dire, tu sais, à vous voir de jouer à Destiny, envoyez-nous autres.
Tweetez-nous.
Envoyez-nous autres, tweetez ça, puis allez sur la page de Facebook, on a mis le trailer justement il y a quelques heures sur la page Facebook du Geek Collectif. Fait qu'on vous invite à aller laisser des commentaires là-dessus. On a des gens, déjà Joël qui tripe sur Rara Rasputin.
Ça, c'est un inside avec moi, ça.
C'est pas une toune louche de disco des années 70.
Oui, et exactement. Puis le nom d'un Warmind AI que t'as dans Destiny, justement.
Cool, cool. Ben, merci, Max.
Ben, ça fait plaisir.
JP?
Oui, allô.
Salut.
Salut.
On te parle en face depuis tout à l'heure.
Ben oui.
C'est à ton tour. Là.
Ok, oh shit.
Fait oui. Que, qu'est-ce qui se passe de bon avec ton actualité, toi?
Non, moi, Melter, quand
mon son était fermé.
Écoute, je vais te résumer ma vie, là. C'est pas mal de travailler, puis des fois dormir. Puis des fois, quand je veux un peu de me time, là, aller chier. Ça, c'est mon me time à moi.
Puis de devenir un meme sur Internet aussi.
Ouais, là. Ouais, je sais, ouais. J'ai beaucoup d'apparitions médiatiques.
C'est génial.
Puis, c'est, non, mais c'est, ça me garde occupé, Crypto-Québec. Mine de rien, je pense que tu disais, on s'est un peu garanti une sécurité d'emploi. Ouais, ouais. On a définitivement trouvé une niche avec ça. Je pense que la dernière année nous le prouve. Ça roule bien nos affaires. Puis, il y avait un besoin criant de ça au Québec. Parce que la sécurité informatique, l'état de surveillance dans l'ère post-Snowden, tout ça, c'est très abstrait pour bien des gens, tu sais. Puis ils ont besoin qu'on les approche, qu'on leur explique dans des termes simples ce que ça veut dire, comment ça a un impact sur eux, pourquoi ils devraient s'inquiéter de ça. Tu sais, fait que du monde, des spécialistes en sécurité informatique, il y en a au Québec, il en manque pas, il y a beaucoup de talent là-dessus ici. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de vulgariser ça, surtout quand on braque une caméra d'en face ou quand on te met un micro de radio d'en face, puis tu dis explique-nous ça. Il y en a même qui vont te choquer, tu sais, surtout. Bon, je veux pas être plate, mais le milieu est rempli d'autistes. Là. Fait que ça va pas toujours des bons résultats à l'écran. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y avait un besoin de ça qui existait. Il y avait Open Media qui existait au Canada, mais c'était très canadien, très canadien comme contenu, tu sais. Pour ça, fait qu'il y avait un besoin de ça au Québec. Je pense qu'on a bien fait de lancer ça.
Ben, honnêtement, c'est un projet qu'on a eu la chance de suivre avec ton évolution là-dedans. Puis c'est cool parce que justement, là, vous avez franchi un peu ce mur de. On tente de faire de quoi, puis là, tu sais, on te voit apparaître dans des médias de masse comme Radio-Canada, on te voit Journal de Montréal, les affaires de main. Fait que, tu sais, là, vous êtes présent, puis ce qui est le fun, c'est que ça redonne un peu aussi une lumière sur le sujet. Parce qu'on s'entend, tu sais, il y a eu des phases, on s'entend 94, Hackers sort avec Angelina Jolie, etc. Puis là, il y a une grosse tendance, Hackers, que c'est le
tout le monde fait du rollerblade.
C'est ça, tout le monde fait du rollerblade.
Je suis un hacker, je fais du rollerblade.
C'est ça, tu sais.
Je fais du longboard sur le trottoir.
T'as ça, tu sais, puis on n'entendait plus parler de Mitnick, on n'entendait plus parler de social engineering, on n'entendait plus parler de rien. Et pourtant, s'il y a bien des sujets d'actualité, parce que l'évolution de la technologie est là, tu sais, c'est cool qu'on remette ces sujets-là dans le spotlight, qu'on leur redonne vie un peu, puis qu'on conscientise des gens, parce qu'il y a un Christi de besoin pour ça. Là.
Ben, c'est que ça. Pas parce qu'on le couvre pas dans les médias que ça continue pas d'exister, t'sais, au contraire, je veux dire, mais maintenant c'est, vous m'excuserez le terme anglais, mais c'est weaponized, le hacking c'est étatique maintenant, genre les plusieurs pays qui ont des groupes de hackers qui sont spécialisés, qui se font de guerre état en état, tu sais, je pense États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, c'est les grosses 5 puissances dans le milieu de l'hacking étatique, tu sais, je veux dire, ça se passe à un niveau mondial, tu sais, puis avec l'internet des objets. À Star, c'est un frigo chez vous qui est connecté à Internet, qui est utilisé dans un botnet, dans une cyberguerre contre la Chine.
Ça, c'est quand même
assez c'est fucké là, quand tu y penses. Là. Je veux dire, c'est assez disjoncté. Ça fait
toi, il faut que tu l'ouvres, ça fuck de quoi.
Là. Non, c'est malade. Mais c'est ça, c'est fou. Fait que là, ça va chercher les gens jusque chez eux directement. Fait que ça, les gens sont victimes un peu de ça. Puis c'est à peine une exagération. Là, quand on parle des dispositifs IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, on parle, il y a 15 milliards de dispositifs d'Internet of Things présentement. Il y a plusieurs milliards de dispositifs, puis ça va juste aller en...
Par dispositif, tu parles des objets qui
webcam,
sont...
Webcam, caméra de surveillance quelconque, système de domotique, frigidaire, un laptop,
Chromecast,
un cellulaire.
Un micro.
Chromecast, tout ce qui est une adresse IP, tout ce qui est connecté à Internet est un dispositif qui est IoT enabled, Internet of Things enabled. Fait que tout ça... Souvent, c'est développé par des compagnies chinoises qui s'en sacrent de la sécurité, qui vont pondre un produit le plus rapidement possible pour faire une mise en marché le plus rapidement possible, pour faire du cash le plus rapidement possible. Puis la sécurité, c'est encore vu aujourd'hui, en 2017, comme une dépense principalement. Et non pas une manière de genre construire ta business, puis faire en sorte que tu as un bon produit, un produit de qualité, qui va être sécuritaire pour toi puis pour tes clients. Les autres s'en foutent.
La responsabilité va au consommateur en réalité, non au fabricant.
Puis c'est ça qui est l'absurdité de la chose présentement, c'est qu'on pèle dans le cours des consommateurs, on pèle dans le cours des clients, puis des gens qui utilisent un service quelconque, un produit quelconque, la responsabilité de sécuriser des dispositifs qui n'ont pas les connaissances ou même le temps. On parlait de temps tantôt, ils n'ont pas juste le temps nécessairement de mettre là-dessus. Moi, j'étais un col bleu, moi, je reviens de la job, j'ai passé 6-12 heures de la journée, moi, je rentre, j'ai ma femme, mes enfants, parce que j'ai le temps de commencer à lire comment sécuriser ma webcam. Non, puis c'est pas la responsabilité de ces gens-là de faire ça, c'est les compagnies qui devraient faire ça. Sauf que là, on est dans une situation où ils s'en foutent, puis on sort à appel des dispositifs qui sont IoT-enabled, qui se font hijacker dans des botnets à gauche, à droite, puis là, ben, ça, c'est utilisé comme cyber-arme, j'ai eu le terme cyber-machin-truc, mais c'est ça que c'est. Dans des guerres financées par des États à cette heure. Donc là, c'est plusieurs niveaux de responsabilité, puis de littéralement de financer par nos taxes, comme dirait Jeff Filion en Radio X. Fait que tu sais, on est à un niveau, là, c'est vraiment absurde. Puis là, tu sais, t'as la courbe de croissance technologique qui fait ça de même, puis la courbe de croissance technique des gens qui fait ça comme ça.
Ouais.
Fait que là, t'as le gap ici, là, qui va en grandissant. Puis les gens, ils sont plus capables de suivre. Puis c'est normal, ils sont plus capables de suivre. Puis là, ça va devenir un enjeu bientôt de santé publique au sens large, là, si vous voulez. Là. Dans le sens de un enjeu sociopolitique. Parce qu'on on a un technology run amok avec des gens qui sont plus capables de suivre puis qui sont victimes de cette technologie-là. Fait que là, il faut décupler les groupes comme Crypto-Québec justement pour en parler, pour couvrir ça, parce que nous, on a la misère à fournir. Mine de rien, on a des vrais jobs pendant la journée, puis le soir, on fait ça, puis on donne des ateliers, des formations aux journalistes, aux entreprises privées, tout ça. Sauf que maintenant, il y a juste 178 heures dans une semaine. Là. Fait que,
effectivement. On a Stéphane Payette sur le chat qui dit « Je pense que s'il commence à en parler, commence en caps lock, c'est que c'est déjà pas mal plus répandu qu'on pense. » Mais effectivement, tu sais, on parle des botnets justement avec les Internet of Things, mais si ça commence à être répandu, on peut juste prendre aussi comme exemple l'implication, tu sais, l'élection Trump avec toutes les allégations de hackers russes qui ont généré des memes, mais qu'en réalité... Et, il y a eu beaucoup de questionnements autour de ça. Récemment, il n'y a pas eu aussi une panoplie de Zero Day qui ont été dévoilées que certaines agences gouvernementales ont accès et utilisent.
Pizzagate, faut pas oublier Pizzagate.
Ok, je me lancerai pas dans Pizzagate.
Moi, je le nomme tout le temps.
Hashtag We Have the Documents.
Ouais,
ça, Alex Jones aside, ça c'est, tu fais référence évidemment au document d'exploit de la CIA qui a été publié par WikiLeaks il y a une semaine et demie à peu près, deux semaines, je me souviens plus, catalogue des documents de 2013 à 2016 sur des douzaines de Zero Day ou d'exploits qui existaient ou qui existent encore dans tout ce qui est gros système informatique, là, Linux, Windows, iOS, tout le kit, là. Et ça, ce qui met essentiellement en danger l'infrastructure même d'Internet, puis met tout le monde en danger parce que tout le monde utilise ça, puis eux autres gardaient ça comme arme de leur bord, tu sais. Fait que c'est aberrant de la part de la CIA, d'une agence qui est supposément une agence patriotique américaine qui est supposée défendre la nation américaine, mais dans le fond...
Ça en sert pour espionner sa propre nation.
Ben, ils vont dire que non, parce qu'il n'y a pas de chiffre qui existe vraiment très clair sur l'espionnage interne aux États-Unis par leurs propres agences, malgré le fait que, bon, ils font de manière détournée, tu sais, je veux dire, il y a des ententes de transfert d'informations qui existent entre les gros pays comme les pays des cinq yeux qu'on appelle, là, les États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, puis Australie, je pense.
C'est au moins là-dedans. Pas payé.
Ouais, moi, c'est
ça. Surpris que la Nouvelle-Zélande soit là, par contre.
Moi, je parle d'adresse qu'on dit comme Israël, à la limite.
Pas de non, mais Nouvelle-Zélande, c'est les pays anglo-saxons d'après la Deuxième Guerre mondiale se sont entendus, tu sais, par rapport à ça, puis ils se font de l'échange de communication. Tu sais, ils vont dire que le Canada espionne pas son propre pays. Ouais, mais la Grande-Bretagne espionne les Canadiens, puis leur donne l'info par la suite, tu sais. Fait que l'échange d'informations se fait là. Fait que tu sais, c'est super insidieux comme milieu. Puis là, tu sais, en surface, la CIA, ça nous protège des méchants terroristes, mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, ils font partie du problème jusqu'à un certain point. Le milieu du renseignement, c'est tellement un milieu pourri qu'il y a un organisme qui a été créé il y a quelques mois qui s'appelle Intel Exit, qui a comme but premier de sortir les gens du milieu du renseignement.
Wow.
Genre, quand t'es écœuré, t'es plus capable, là. Parce que tu vois trop de shit tout le temps, puis ça te fait capoter. Ben là, il y a un organisme qui va t'appuyer, va te donner un soutien psychologique et juridique pour te sortir du milieu.
Un genre d'organisme qui aurait peut-être pu aider Snowden dans le temps, j'imagine.
Certainement, oui, probablement. En fait, est-ce que ça aurait été une bonne chose? On aurait peut-être pas eu l'éclosion de tout ça.
C'est peut-être la résultante de Snowden, justement.
Mais ça s'inscrit dans le zeitgeist post-Snowden, là, je dirais. Là, vraiment, c'est que ça, c'est des trucs que les gens dans ce milieu-là, quand ça a sorti, on était comme. Bon, enfin, une preuve concrète de ce qu'on parle depuis des années, tu sais, mm-hmm. parce que avant ça, c'était le système échelon. Puis, tu sais, je me souviens, en 2001, moi, pour une certification, j'avais écrit un white paper qui parlait justement des systèmes de surveillance globale. Je parlais d'échelon, tout ça. Puis, j'ai passé ma certification avec ça, tout ça. Mais quand j'en parlais à des gens, j'étais le conspirationniste de service. Puis, non, c'est que hashtag we have the document. Puis là, c'est vrai que j'avais des documents. Puis, tu sais, s'il y en a qui disent, il n'y a pas grand chose qui a changé dans l'ère après Snowden, mais je pense que c'est faux maintenant. Genre, c'est comme les gens le savent et ont une preuve concrète de ce qu'on avançait depuis si longtemps que, oui, il y a anguille sur Rocher. Ça s'inscrit aussi dans la tendance lourde qui existe depuis une couple d'années que les gens font plus confiance aux institutions, les gens font plus confiance aux politiciens, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme un éveil. Tu sais, les bœufs sont lents mais la terre est patiente comme disait Falardeau, tu sais. Fait qu'il faut pas s'attendre à un changement du jour au lendemain. Fait que tu sais, ça progresse, tout ça progresse lentement, mais les gens commencent à se réveiller un peu, je pense.
Ouais, mais crime, c'est cool. Puis c'est cool que vous soyez là justement avec l'organisation pour pouvoir conscientiser les gens. C'est cool que vous ayez une nouvelle tribune aussi un peu plus accessible. Donc c'est sûr, c'est le fun que Ginette de Sorel soit au courant que son nouveau réfrigérateur est peut-être en train de participer à une attaque en Chine.
Ben c'est le public qu'il faut aller rejoindre.
Ben exactement.
Faut arrêter de parler dans les chambres d'écho. C'est facile de se taper dans le dos et dire « Ah ouais, ces gars-là ils ont raison, ils pensent comme moi. » Ah ouais, c'est ça, tu vas plafonner à un nombre de personnes déjà convaincues puis ça fait pas avancer ta cause.
Ouais,
fait qu'il faut aller rejoindre ces matantes-là de Blainville, genre, tu sais, je veux dire, c'est fait une caricature typique de ça, mais tu sais, la mèche mauve sur les cheveux bleachés blonds, là, il faut aller y parler à cette
ouais, mais leur fille est coiffeuse.
Ouais, ouais, ben, ils ont le droit, ils ont le droit. Non, mais là, je fais des blagues, mais c'est personnes-là qu'il faut convaincre parce que, je parle, nous, notre cible, c'est le Québec parce que, évidemment, c'est notre lieu d'action. Mais l'âge moyen du Québécois, c'est 43 ans. C'est pas 22 ans. C'est pas quelqu'un qui a 22 ans, qui habite dans Rosemont, puis qui est en étude de danse africaine féministe à l'UQAM. Là. Je vais me faire des ennemis à soir. Quand... Juste faire une parenthèse, mes opinions n'impliquent que moi, personne d'autre à Crypto-Québec. Okay?
Mais...
Ou le collectif non plus. Non,
c'est ça. Je m'avais quand même invité.
UQANIEM racisé en action, c'est présentement son live, fait qu'il nous écoute pas.
Mais tu sais, ce qui va être intéressant ce soir, c'est qu'on va te sortir un peu de ta zone de confort, parce que là on va ramener ça à un sujet un peu plus gaming,
mais je suis un gamer, je veux
dire, ben c'est ça, fait que tu vas pouvoir quand même faire des bons liens.
Ouais, ouais, ouais.
Mais
je veux juste dire de quoi avant qu'on aille à la pause.
Oui,
ben si tu l'as, tu y allais.
Ben en fait oui,
parce que t'as nommé la Nouvelle-Zélande tantôt.
Oui,
puis moi j'ai nommé Lord dans mon actualité,
c'est une néo-zélandaise.
Oui. Puis pour de vrai,
ouais,
je savais même pas, mais tu veux-tu savoir qu'est-ce qui est encore plus drôle d'abord? Ouais, moi je pense qu'elle était british.
Je pense qu'elle est british,
mais peu importe, quelque chose de drôle avec ça, c'est le lien entre les deux. C'est que la semaine passée, Lord, elle a fait un show en Nouvelle-Zélande devant une grande foule de gens. Elle a fait le show pis tout. Mais c'était pas Lord, c'était une fille qui s'est faite passer pour Lord. Puis pendant ce temps-là, Lord était en Angleterre, ben chill, chez eux. Puis elle a entendu comme hey, t'as fait un show en Nouvelle-Zélande. Comme non.
Ok, mais attends, ok, fait
la fille,
il y a quelqu'un qui impersonate.
Elle s'est faite passer Lord pour elle. Puis elle a fait le show, puis le show, il a bien passé.
Ça a passé
là
comme dans du bar. Wow.
Personne s'en est rendu compte, il n'y a personne qui a
fait
rien
fait qu'il y a quelqu'un
dit
qui a payé 60$ pour aller voir genre Ginette Tremblay, puis en pensant que c'était Lord.
Ou Randy Marsh, peut-être, on ne sait pas.
Hey, mais ça, là, ça, honnêtement, c'est malade de 45
ans qui fait un show de Lord. Personne s'en rend compte.
La New Zealand s'est faite
fallait juste que je le dise, de même, là, pour un des pays dans le groupe des cinq yeux, ouais, là, ils ne sont pas fort forts pour être capables de se rendre compte que ce n'est pas Lord qui donne
puis
le show.
C'est bel et bien le Auckland en Nouvelle-Zélande.
En plus,
c'est une fille de la place, puis ils ne sont pas capables de la reconnaître. Ils font comme 12 en plus là-bas.
Guys, ça fait déjà quand même un bon moment qu'on parle. On a eu des bons sujets. Ce qu'on va faire, on va prendre peut-être un petit 2 minutes pour que si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aller faire une pause ravitaillement et vidange, puis on va continuer avec le sujet de ce soir, donc la zone grise. On va aller parler de gaming, on va parler justement des modifications de consoles, le hacking de consoles, la NES classique, puis son origine un peu douteuse, puis on va parler de CMU aussi au retour, CEMU, donc de retour dans 2-3 petites minutes. Fait que on est de retour de la courte pause. Tout le monde a son breuvage, tout le monde est prêt. La zone grise. Il y a beaucoup de phénomènes qui prennent surface ces temps-ci. On s'entend. Le prochain segment va mettre Nintendo souvent dans le spotlight aussi également. Nintendo qui est souvent dans le spotlight parce qu'ils ont un gros bassin de fanatiques, un gros bassin d'adeptes qui aiment vraiment les produits Nintendo. Puis je vais pas mal m'inclure là-dedans. J'aime les produits Nintendo. Je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'ils font. Mais
as-tu acheté ta Zelda Box, toi?
J'ai pas acheté ma Zelda Box encore. J'ai pas acheté ma console que je vais me demander à quoi je joue après Zelda, mais bon. Parlant de cette fameuse Zelda Box-là, Nintendo font souvent les manchettes ces temps-ci. Des produits très convoités. Des produits très en demande. On parlait. Ça a débuté avec la NES Classic. La NES Classic qui a créé beaucoup d'enjeux pendant le temps des fêtes. La petite boîte à 89$ qui te permet de jouer à des jeux rétro. Puis là, il y a eu la Switch qui est sortie, le Zelda Box, comme Milter le mentionne bien, qui te permet de jouer à Zelda Breath of the Wild, que tu peux jouer également sur la Wii U. Par contre, ces temps-ci, on voit beaucoup de nouvelles sur les sites de gaming à propos de piratage de consoles. Fait qu'on s'entend, Nintendo ont une historique où déjà la Wii était quand même assez facile à pirater et permettait aux gens de se procurer illégalement des sources de jeux, ce qui a peut-être pas pu aider la console. Mais là, on se rend compte que ben la Wii U, ça existe déjà depuis un bout. Fait que la Wii U est piratée. On s'entend que là, dans les dernières nouvelles aussi également, grandiosement, par un exploit de iOS, ils ont été capables, avec un webkit, de pirater la Switch aussi également. Fait que là, ben quelques mois après sa sortie, la console est déjà piratée.
Quelques semaines même, je pense. Ouais. Ça fait même quelques pas un semaines, mois qu'elle
sortie. C'est quand même assez intense, là. Moi, je voulais savoir, là, premièrement, je voulais qu'on en discute ensemble, tu sais, voir un peu c'est quoi les motivations, comment vous autres vous voyez ça. Puis on va aborder certains sujets aussi par la suite, surtout au niveau de la NES classique. Il y a une belle zone grise là-dedans, thématique de l'épisode, qu'on va pouvoir discuter tantôt. Mais vous autres, t'sais, vous voyez ça comment, du piratage de console? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est encore nécessaire en 2017?
C'est pas une question de nécessité tant que ça. Ouais. Je veux dire, c'est tu le fais parce que tu peux le faire. C'est pas parce que t'as besoin de le faire. T'sais. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit sauf dormir et manger. T'sais. On s'entend. Là. Le besoin de découvrir, de passer outre les limites imposées, c'est la raison d'être même du hacking au sens large. T'sais. Fait que t'as pas besoin de le faire, mais c'est sûr que ça va toujours se faire, parce que quand tu mets un gros bouton rouge marqué « Do not push », je vais faire ça de même, c'est clair, là, parce que dessus toutes mes forces, t'sais.
C'est évident, ça.
J'ai 36 ans, quand je passe à côté d'un cactus, je mets mon doigt dessus, t'sais. Je fais pas une blague.
Je fais pareil.
Ah bon, si je me sens moins ça. Non, mais tu sais, c'est pas une question de nécessité, c'est une question d'aller au-delà, puis de te dépasser toi-même, genre « Ah ouais, je peux pas y aller, je vais y aller. » Je vais trouver une manière de passer outre les limites, puis je vais défoncer ça. T'sais. Fait que c'est la nature même de l'humain jusqu'à un certain point, d'aller au-delà des frontières, puis de se repousser. Puis c'est pour ça qu'on a monté le Mont Everest, c'est pour ça qu'on a des maniaques qui sont allés en Antarctique, puis on dit « je vais me rendre jusqu'au au point central de l'Antarctique ».
Fait que dans le fond, t'as des différentes ambitions, du genre « je vais aller graver le Mont Everest, puis je vais pirater la Wii U ».
Ouais, c'est drôle de comparaison, tu vas me dire, là, mais je veux dire, dans in the grand scheme of things, ça s'inscrit dans la même logique d'aller plus loin.
Même type de pensée.
Ouais, effectivement. Mais selon vous, croyez-vous que les gens sont conscients des répercussions quand ils font ça? Ou... Tu sais, parce qu'on s'entend, là, je vais faire un parallèle, JP, puis corrige-moi si jamais je suis à côté de la traque, mais une des mentalités du hacking du début, c'est de trouver une exploitation pour prouver, premièrement, qu'on est capable de rentrer dedans, avoir le bravado, donc l'avoir prouvé, on l'a fait.
Le prestige.
Mais c'est surtout aussi, c'est d'aider, après ça, c'est soit d'être le seul de connaître le backdoor, d'être rentré, ou sinon, ben, dans les principes de White Hat,
c'est le responsible disclosure. C'est dans le fond, c'est que tu trouves une faille. Ben, en fait, avec les programmes de bug bounty qu'il y a maintenant, de plusieurs entreprises qui disent on va vous trouver des bugs, des exploits dans notre code, dans nos services, dans nos produits, on va vous payer pour 500$ de l'achat, ou plus, ou moins. Tu sais.
Ben, ça permet au monde de le faire moins malicieusement, dans le sens que je vais le faire pour un profit. Plus que je vais le faire pour faire chier.
Ouais, mais en fait, c'est que ça satisfait la curiosité, disant que genre, je peux le faire, je suis capable de le faire, puis je suis payé pour. On s'entend que, bon, tu sais, les bug bounty programs, c'est un peu ridicule, parce que, je fais une parenthèse rapide, là, c'est que s'ils payent 500$ de l'achat, mettons, mais des audits de sécurité, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Fait que, tu sais, je veux dire, les compagnies sauvent énormément d'argent de même. Ils ont l'air cool puis progressistes parce qu'ils permettent au monde de hacker leur système. Puis là, au lieu de les poursuivre en justice, ils leur donnent une tape dans le dos puis ils donnent un petit chèque de 500$. C'est, bon, ça, c'est, bref, c'est un truc de relation publique, là.
Mais est-ce que les répercussions sont similaires ou, mettons, je te donne un exemple, quelqu'un pirate, puis là, je vais essayer de prendre de quoi de similaire, mais quelqu'un pirate le logiciel Office ou quelque chose comme ça, et quelqu'un qui pirate la console de Nintendo. Est-ce que la répercussion va être similaire? Tu sais, je te donne un exemple, là. Nintendo sont fabricants de consoles, et si leur console est piratée, ceux qui vont en payer, en réalité, ça va être les développeurs de jeux et non Nintendo eux-mêmes. Là, dans le sens de Nintendo, la majorité des jeux sont in-house, c'est sûr et certain, mais si on prend un PS4 qui se fait pirater, puis que finalement, c'est Activision que tout le monde pirate Call of Duty, en réalité, la boîte de Sony a créé une répercussion à...
Une autre tierce, c'est un third party.
Ouais. Là, mettons, on pirate Office, on pirate un logiciel, c'est le publisher du logiciel directement qui est affecté.
Donc... En gros, le monde achète quand même une console pour la pirater, fait que Nintendo font leur cash de console, si on peut dire, leur vente.
Ouais, mais ils font pas l'argent avec la console, c'est ça l'affaire. Ça coûte tellement cher de développer une console.
Une console n'est pas profitable en tant que
tel. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, eux autres, les compagnies s'en calissent jusqu'à un certain point, j'imagine, parce que leur cash, ils font avec leurs jeux, puis les produits dérivés, puis tous les services de gaming online mensuels, puis ce genre de trucs-là. Fait que...
Mais quand c'est hacké, tu fais plus ce profit-là.
Ben, ça dépend,
dépend du hack, là, naturellement. Ouais.
Ben, tu sais, justement, dans la majorité de ces consoles-là, si on paye plus le jeu, j'imagine qu'on n'a plus accès aux services en ligne non plus quand on modifie notre console.
Encore, pour Nintendo, je ne le sais pas, puis c'est peut-être plate à dire, mais Nintendo puis Internet, moi, dans ma tête, ça ne fit pas ensemble. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils seront pas capables de bloquer quelqu'un qui pirate pour avoir le service gratuit.
Fait que ton Zelda Box, il a pas accès à Nintendo Online Service, t'es pas plus triste que ça, dans le fond. Là.
Ben, moi, je le serais pas rendu là, parce que le online de Nintendo m'attire pas tant que ça, parce que je le sais qu'en partant, il te l'annonce, puis il est déjà en retard sur bien des services, puis au moins, ils ont la dignité de te charger la moitié du prix pour, là, 30$ par année au lieu de 60. C'est déjà au moins une reconnaissance du « on n'a pas de voice-over IP en 2017 », puis plein de choses louches de même, si on peut dire. Mais, tu sais, pour revenir aux répercussions... Moi, je pense que le gars qui invente, si on peut dire, le hack ou le mod ou whatever, là, le flash mod ou quelque chose, ben lui, il sait très bien les répercussions. Là, que s'il release ça gratis, puis souvent, ils le mettent en open source, prenez mon affaire, puis faites ce que vous voulez avec. Voici un tutoriel en petit readme texte, là, genre, puis amuse-toi avec ça. Là. Lui, il est très conscient des répercussions. Il sait qu'avec ça, il y a du monde qui ne paieront plus de jeu. Il sait que ça va peut-être faire perdre des millions de dollars. Une des raisons pour eux qu'il ne le vend pas, c'est pour ne pas se faire poursuivre après. Parce qu'en le donnant gratis, je pense que...
Ça limite les
risques de poursuite. C'est ça, là, en
partant. Déjà qu'il se fait pogner, il est dans la merde. Mais s'il le vend en plus, ben, il va avoir des répercussions.
C'est ça, là, c'est des grosses affaires. Mais c'est un petit côté que je pense que la communauté est hacker d'Internet est consciente. Et en même temps, il y a le chose de « je vendrai pas rien, là, je vais juste le mettre, puis je vais laisser le... » Genre, un peu comme moi sur Internet, genre, je pars le feu, mais je laisse les autres mettre l'huile dessus. Fait que lui, il...
Quel altruisme incroyable.
Non, mais c'est vrai, des fois, je regarde les affaires, puis je suis comme, « Ah, la merde est déjà assez pognée, je m'en vais pas répliquer. »
Moi, je vois ça plus comme que Milter fait un barbecue, puis il invite tout le monde, mais c'est un open house. Open house, ça va jamais bien, tu sais.
C'est ça. Moi, mais ça ressemble un peu à ça dans un sens, mais le monde qui sont pas conscients, puis c'est eux autres qui vont plus avoir une répercussion, c'est le monde, justement, qui vont payer un gars, tu sais, le gars qui l'a pas inventé, il y a le gars qui le comprend.
Ouais.
Le gars qui le comprend, il le download, puis lui, c'est le gars... C'est le mononcle à mon ami. C'est le gars que j'ai payé il y a une couple d'années pour flasher ma Xbox originale. J'ai donné un petit 50$, puis lui, il me pince plein de pitons bien vite dans ma face. Ça prend 5 minutes. Il me donne un CD, puis il me dit « Tiens le grand, t'as tous les jeux d'Atari, de NES, de Super NES, de N64, nanana. » Puis il me sort tout de Sega. Hostie. J'avais 10 000 jeux sur ma console en version japonaise, européenne, américaine, name it, mod, peu importe. Pour 50$.
Mais pensez-vous que c'est la responsabilité à ce moment-là des compagnies de patcher leur console justement pour prévenir tout ce qui est le piratage? Puis... Parce que c'est sûr, eux, je pense qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Leur code est piraté. C'est à eux de prouver justement. Puis réconforter les studios, de dire, ben regarde, moi, écoute, je prends ma console en main. Oui, le piratage, je ne tolère pas ça. Je vais essayer de la patcher, mais d'un autre côté...
Je peux-tu te répondre en posant une question à JP?
Certainement.
Parce que ça a rapport un peu avec ce qu'il disait tantôt. Il parlait de la sécurité. Les entreprises qui considèrent que c'est une dépense superflue puis que c'est pas nécessairement inutile. Est-ce que la raison, c'est un peu comme qu'est-ce qu'André dit? Peu importe combien d'argent que tu mets dessus, peut-être que ça va prendre plus de temps, mais quelqu'un va trouver une faille pareille un moment donné.
Ben ça, c'est, je pense que l'histoire a prouvé que c'est le cas. Là.
Fait que c'est-tu pour ça qu'ils disent, gars, le gars va le trouver dans un an ou qu'il le trouve dans un mois? On paye-tu des millions, milliards, peut-être pas milliards, là, mais tu sais, des...
La question est bonne parce que il y a eu des après-coups, des études qui ont démontré que c'est plus rentable pour une entreprise de se faire hacker et tout rebuild from scratch, si tu veux, que juste investir dans la sécurité au day-to-day, dans le patch, dans le bon code. Ça coûte très très cher parce que ça prend des experts, ça prend du temps de développement, ça prend une veille continue.
C'est un payroll qui roule.
Ben, genre, tu finis jamais, tu sais. Puis là, le coût de hacking pour une compagnie majeure, c'est à peu près 200 000 piastres. Pour Nintendo, 200 000 piastres, c'est un back scratcher en argent. Tu sais, je veux dire, c'est rien pour eux. Là, tu sais. Fait que le problème est là, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être proactif à ce niveau-là. Tu sais. Fait que ouais, c'est ils se disent, je pense que parce que la logique marchande est là. Hein, faut pas oublier que Nintendo, c'est à la base une entreprise. Son but premier, c'est de maximiser ses profits. C'est ça la base. Oui, il y a des passionnés de jeux vidéo là-dedans, mais c'est un conseil d'administration, ils ont à répondre à des actionnaires, puis eux autres, ils veulent maximiser les profits. Fait que quand tu dis, pour les 5 prochaines années, ton coût de développement en sécurité, ça va te coûter, mettons, 35 millions de dollars, j'invente juste n'importe quoi. Puis si tu fais hacker 3 fois, ben ça va te coûter 600 000. Le choix est facile à faire en tabarnouche.
Mais il doit y avoir une différence aussi entre le fait que, tu sais, parce que là, on parle d'un hack hardware, puis il y a des hacks software, donc... Compte tenu que la console, tu sais, je te donne un exemple, la Wii U qui a été piratée, là, ben, la personne qui pirate la console Wii U sait consciemment qu'elle perd les fonctions en ligne. Par contre, elle peut se permettre de jouer à tout le catalogue de Wii U gratuitement. Donc, comment une compagnie pourrait se protéger d'un certain hack comme ça? Parce que moi, consciemment, je sais que je viens de pirater ma console. J'ai juste à plus jamais la connecter en ligne.
Ben, c'est ce que je m'en ai dit. Si t'es pas en ligne,
Nintendo peut rien faire pour essayer de m'empêcher de faire ça. Mis à part... comme ils ont déjà fait dans le passé, forcer des updates de console par le biais du software. Donc, je vous donne un exemple. Nintendo, ça ne me surprendrait pas que prochain jeu de Nintendo Switch ou quelque chose comme ça vienne avec un software update nécessaire pour pouvoir accéder au contenu. Mais quel recours a une compagnie contre des gens?
Mais si on s'entend qu'un hacker va te donner le software update à part d'une façon comme dans le temps qu'il piratait super écran avec des petites cartes que tu allais chercher ton nouveau code au marché aux puces.
Exactement, mais tu sais, moi c'est
hacking, là,
ce volet-là hardware qui me fascine, c'est comment une compagnie pourrait essayer de se protéger de ça?
Ben ça, c'est pas tant du hacking hardware que tu m'as décrit, là. Ça reste encore software parce que c'est tu fais du reverse engineering dans ce cas-ci sur d'un logiciel qui, dans ce cas-ci, va pousser une update, va forcer une update ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, ça reste software-based quand
même. Moi, j'entends plus parler de hack hardware. Tu sais, je me souviens, la première Xbox, là, c'était souvent comme, ah, le gars, il l'ouvre puis il soude une nouvelle chip.
C'est
dedans.
Ça, exactement.
Ça, j'ai entendu ça dans le temps, à Star, là. J'ai jamais vu personne mettre une chip ou whatever dedans, là. Tout le monde, c'est genre, il met un CD, il fait un debug mode sa manette, que je sais pas comment il a trouvé.
Ben, c'est intéressant,
il accède à un iOS, puis...
Parce que c'est vrai que la mode chip a comme disparu du marché, parce que je me souviens même, le premier PS1, il y avait comme une mode chip externe que tu pluguais dans un port IO à l'arrière, puis là, tu mettais un bout de CD, puis tu le truquais en mettant une autre affaire, mais... Parce que t'as raison, dans le fond, c'est pas un hack hardware, c'est carrément, c'est du software engineering puis du social engineering aussi.
Non, c'est du reverse engineering, c'est essayer de comprendre comment un logiciel fonctionne à partir de son exécutable, non pas à partir de son code source, parce qu'on l'a pas le code source, tu sais.
Il faut essayer de te rendre au code source.
Ben, t'essaies de comprendre comment le logiciel fonctionne en l'ayant déjà tout cru, compilé, puis il y a des logiciels qui existent pour compilateurs comme IDA Pro, puis tout ça, qui font du reverse engineering de code, puis c'est comme ça que tu t'y prends pour essayer de comprendre les appels en mémoire, puis ce que cette fonction-là va appeler quel accès va accéder quoi en mémoire, puis avec cet accès-là en mémoire, je peux avoir, je peux tirer X informations de tout ça, tu sais. Ça reste pure software, là, tu sais, comme du vrai hardware hacking, c'était comme tu as dit, la Xbox One aussi, la chip, tout le kit, ça fait. Je suis pas au courant des derniers développements du hardware hacking dans la scène de console, c'est pas mon milieu d'expertise, là, mais en effet, j'en entends plus parler depuis un bout. C'est peut-être une impression, je sais pas. Là.
Moi, honnêtement, je pense que. Excuse-moi, je voulais pas couper. Je pense que le dernier hardware mod que j'ai vu pour hacker, c'était sur la PSP. Je pense que c'était le battery pack qui était en arrière.
Ouais, parce qu'il y avait mis le ça, c'était intéressant.
Le software de base était dans la batterie, je pense.
Ouais, en réalité, c'est que ton firmware
le BIOS.
Validait le BIOS qui était sur la batterie. Fait que dans le fond, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu flashes le BIOS sur la batterie elle-même.
Ou tu achetais un battery pack que tu achetais sûrement sur eBay. Au marché aux puces, alors qu'il coûtait 25$. Tu loadais dedans et voilà, tu as un nouveau firmware qui te permet de
loader. Ça venait avec un BIOS déjà genre modifié qui bypassait genre des.
Tu n'avais rien besoin de modifier, tu mettais la batterie là, tu loadais un genre de UMD spécial qui venait avec. Ça l'autre de quoi? Merci, bonsoir.
Mais même encore là, ça revient du software hacking, ça, parce que c'est du reverse engineering, parce que il altère pas le chipset de la batterie en tant que tel, il faut juste le reflasher.
Quelque part, oui. Mais c'est parce que le piece de hardware, il était à part, parce que c'était
dans la batterie. En fait, c'est un mauvais design, parce que c'est trop facile. Tu fais juste switcher à la batterie, puis avec contient un BIOS qui a été flashé d'une certaine manière.
Eux autres, dans leur idéologie, c'est de dire qu'il n'y a personne qui va penser que le BIOS est dans la batterie, mais il y a du monde toujours plus wise qu'eux autres qui vont trouver ce genre
de choses. Ça revient à la question de Milter, en fait. Il disait, essentiellement, c'est une question de temps. Oui, puis le génie humain étant ce qu'il est. C'est que quand tu mets des limites, forcément, on va se pousser à aller au-delà de ces limites-là. Ben, c'est très naïf de croire que les gens ne penseront jamais à ça.
Si toi, tu y as pensé,
il y a 10 000 personnes d'autres qui ont pensé et qui ont développé un fétiche sexuel sur Internet autour de ça. Oui.
côté protection, là, dans un sens, avec le hardware, je viens de penser à de quoi? Nintendo avec la Switch.
Oui.
En retournant aux vieilles gens de... cassette, bâtard, un format physique qui n'est pas un CD, est-ce qu'ils sont en train de céder sur le côté copie de jeu ou c'est du hardware, fait que t'as juste à ouvrir la petite pochette de plastique qui consiste de la cassette, pogner la chip, la
est-ce que la DS a déjà été piratée, Milter?
De quoi?
Est-ce que la Nintendo DS a déjà été piratée?
Ben, je pense bien. J'imagine que oui. Moi, mais c'était avec une petite carte. Ça, c'est une petite carte, me semble, que tu mets avec... Qui prend des
SD.
Des cartes SD.
Micro SD que tu mettais
dans la carte. Micro SD avec des jeux. Fait que c'est quelque chose de même, mais je suis en train de me dire, ils vont-tu juste... Y a-tu des prises USB là-dessus? Ils vont-tu plugger? Ça va finir par être un disque dur plugé après?
En réalité, moi, je trouve... Puis, tu sais, là, on spécule un peu, mais je trouve le design flaw un peu de la Nintendo Switch avec le retour aux cartouches, c'est un peu ça. C'est que la cartouche... Là, c'est plus d'aller chercher le code source du système... de comment ça rentre, puis telle affaire, c'est de prendre la cartouche officielle, de voir qu'est-ce qui la rend officielle, puis ensuite, n'importe quelle cartouche avec un lecteur, on va pouvoir mettre le jeu qu'on veut dessus.
Fait qu'on retourne comme les vieilles cassettes des NES que t'avais genre la Action 52 que tu branchais dans une autre cassette pour la faire marcher.
Parce que ça me fait penser, moi, à job, je programme des chips, parce qu'on a des panneaux électroniques, puis des affaires de même, fait que je programme des programmes, ces chips, puis ma petite machine que j'ai, disons qu'elle n'est pas classe, là, c'est nous autres qui l'a fabriquée, puis tout. Fait que c'est une plaquette verte, un PCB board. Là,
carrément.
On a tout est à l'air, plein de poussière. Moi, je programme mes affaires, ouais, tout va bien. Là. Mais je pourrais demander à l'ingénieur à job, t'es-tu capable d'en programmer une qui va reprogrammer des cassettes de... Je suis sûr qu'il est capable. Là. Ça y tente pas, parce que c'est un vieux bonhomme qui s'en crisse, mais.
Mais parce que ce que tu dis dans le fond, c'est que oui, c'est à cause que c'est plus sur CD ou DVD.
C'est peut-être plus difficile un petit peu.
Ben, t'as un step de plus.
Il faut un hardware.
Il faut un reader genre spécialisé c'est sûr que c'est pas comme genre les jeux qui étaient sur CD ou DVD. Tout ça, c'est que tout le monde a un lecteur CD ou DVD ou presque.
Tu trouves la façon.
Moins maintenant, ironiquement. Mais quand même, c'est très 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 accessible. Pour 20$, t'en as un. Plus, c'est comme 20$, c'est au dépanneur. Là, t'en as un. Là, t'as un lecteur de
les lecteurs CD du dépanneur, du couche. Là, ouais.
Mais c'est une barrière additionnelle si tu veux jusqu'à un certain point, mais ça va-tu arrêter quelqu'un qui est vraiment déterminé? Non, évidemment.
Non, parce que dans 5-6 mois, il y a quelqu'un qui va avoir sorti un reader, puis quelque chose qui va pouvoir flasher les cartes, puis ben.
Exactement. Puis là, je vais changer l'ordre un peu des show notes parce que dans ma tête, ça fait un peu plus de sens d'y aller comme ça. Mais on a eu la nouvelle aussi récemment. On a CEMU, qui est un émulateur de Wii U qui a été releasé sur le marché aussi également. Puis là, ce qu'on a vu, c'est ben dans la majorité des sites de gaming, ben là, il y a des gens qui jouent à Breath of the Wild sur leur ordi avec un émulateur. Fait que là, on vient de tomber aussi où c'est un autre coche, mais... Auparavant, puis là, encore une fois, c'est l'épisode où on est vieux puis qu'on radote, là. Mais dans mon jeune temps, moi, pour jouer à un émulateur, ben, t'sais, c'était des émulateurs de vieux stock. C'était un émulateur qui me permettait de jouer à un jeu de Nintendo parce que j'avais plus de Nintendo. Ben,
si tu jouais à Super Metroid, c'était
un truc. Ben, c'est ça, t'sais, un émulateur, dans le temps, là, c'était la coche. Mais là, on parle d'émulateur que ça émule un jeu de Wii U qui est quand même assez récent, qui vient de sortir. Fait que Breath of the Wild... qui est le software.
Puis il y a deux semaines qu'il est sorti, puis il est déjà... C'est ça qui
exactement. C'est pas une émulation 100% parfaite, mais c'est quand même des gens qui sont capables de jouer aux derniers Zelda sur leur PC.
Quand tu dis pas 100% parfaite,
oui.
Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas parfaite?
Selon les recherches que j'ai faites, parce que
Guillaume n'est pas là... Puis tu parles parfaite comparé à la Wii U, là, parce que c'est le hack de Wii U.
Ben, c'est un hack de Wii U. Okay. Donc, selon les recherches que j'ai faites, Guillaume, j'ai hâte que tu reviennes, parce que je suis vraiment clairement pas bon là-dedans.
On est tout perdu, Guillaume.
On est tout perdu, on radote. Soyez un peu indulgents envers le podcast. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'il va y avoir des textures qui apparaissent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que CEMU est un émulateur. Donc, c'est un logiciel qui sert à émuler... la console. Donc, c'est que ça prend le langage du logiciel de Zelda, puis tu me diras si je le verbalise pas comme il faut, JP, là, mais ça prend Zelda, puis ça le fait parler le même langage que ton PC. Fait que c'est comme un logiciel entre deux qui va faire que t'as peut-être pas exactement la même mémoire que dans ton ordinateur que dans Wii U. T'as pas la même carte graphique, t'as pas le même logiciel d'exploitation non plus. Fait que c'est comme un logiciel entre deux qui va dire, bon, ben ok, ton ordinateur parle l'allemand, puis le jeu parle le chinois. Moi, je vais traduire les deux, puis je vais essayer d'assigner les bonnes ressources. Fait que lui, il a besoin de parler en mémoire, je vais l'envoyer parler en mémoire. Lui, il a besoin de telle affaire. Puis, t'as un joypad qui arrive entre les deux, qui sert de parler. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Ou...
Je suis pas familier avec CEMU exactement, là, mais tu l'as bien vulgarisé, essentiellement. Ouais.
Excellent. Fait que je passe le seal of approval.
Ouais,
fait qu'en réalité, là, ce qui m'a flabbergasté, c'est ça, c'est que deux semaines après, comme tu le dis, Minter, t'as du monde qui... Présentement, je vois des commentaires en ligne des gens qui font « Hey, j'ai acheté mon Zelda, puis j'attends qu'il y ait des Switch disponibles pour les payer. » Pis t'as du monde qui font « Moi, j'ai pas acheté mon Zelda, pis j'ai pas de Wii U, mais je suis en train de jouer à Zelda pareil pendant que toi t'attends.
Ouais. »
Fait que c'est comme... c'est rendu weird parce qu'en plus...
Mais le vrai, vrai fan fini de Zelda, c'est pas le gars qui l'a sur émulateur.
Certainement pas, sauf que d'un autre côté où le média est quand même assez dispendieux parce qu'on s'entend, ça coûte combien un Zelda Box?
Un Zelda Box, tu t'en sors pour 560$.
560$, t'as
console à 400 plus taxes, plus le jeu à 80 plus taxes, puis on s'entend que ça peut te coûter plus cher si t'achètes, ben le jeu en partant, il te faut le jeu, mm-hmm. parce que la machine vient avec aucun jeu. Est-ce-tu de bon coup de marketing, Nintendo? Puis il faut que t'achètes une Pro Controller.
Ok, tu peux pas jouer sans...
Tu peux, mais calisse, qui veut jouer avec ça? Excusez, là, mais... T'es pas obligé, mais 560, tu peux jouer. 620, 640, tu peux jouer comme il faut.
Ok. Tu peux jouer comme il faut. Fait qu'il y a même des classes sociales maintenant dans le game.
Non, mais qui veut jouer avec deux manettes? Tu joues à Zelda, là, je suis en train de faire ma larve sur le divan, là, qui est une main de chaque bord. Parce que quand je jouais à Twilight Princess, là, j'étais de même. Elle avait une main de chat de bord, là. Puis à un moment donné, c'est quand vraiment je bouge, là, tu fasses quelque chose.
Fait qu'en réalité, t'as des gens présentement qui ont investi dans un PC qui va faire plusieurs choses, puis qui vont eux autres de façon illégale parce qu'ils utilisent une copie sauvegardée du jeu de Zelda ils vont utiliser un logiciel qui est sur Patreon en plus. Ça, c'est l'affaire la plus écœurante. Ah, ouais.
Ils font plus d'argent que Murphy Cooper?
Ils font beaucoup c'est d'argent clair. Présentement, beaucoup plus que le Connu Life. Mais ça, j'étais flabbergasté de ça, c'est mon mot de la soirée. Mais l'émulateur est sur Patreon, fait que si tu encourages le développement de cet émulateur-là de Wii U, fait qu'il y a quelqu'un qui run une business parce que si tu encourages le fait que lui, il code un émulateur, t'as les releases, dans le fond, d'avance. Fait que, mettons, le 1.7.3, tous ces Patreons, ils l'ont d'avance. Là, vous allez me dire, ça va se retrouver sur des torrents, ça va se retrouver sur Internet, c'est sûr et certain. Mais là, il y a quelqu'un, ou moi, ce qui m'a surpris et qui m'a explosé le cerveau carrément, qui est en train de se faire financer pour créer un logiciel qui va remplacer la console d'une autre compagnie. Fait que lui, il est financé pour faire du reverse engineering de Nintendo, là. Ça, c'est assez mongol.
Mais c'est-tu légal, son affaire?
T'sais, non.
Nintendo, es-tu au courant de ce Patreon? T'sais, on pourrait pogner le Patreon, aller sur la page de Nintendo sur Facebook, là, juste leur envoyer. Non, c'est pas vrai, parce que Nintendo, on peut pas poster sur leur page, j'ai essayé aujourd'hui. Mais
c'est peut-être parce que t'es banned.
Ouais, non, je suis dessus. Mais en tout cas, tu sais, il n'y a pas quelqu'un à quelque part.
En fait, je suis sûr que si on lit les fine print de Patreon, j'imagine que quelque part, ils doivent dire « Tu peux pas être financé pour des actes illégaux, là.
Ouais. » Est-ce que c'est illégal de faire ça?
Ça?
Tu prends un...
D'un perk, qu'y a-tu, si je me fais poursuivre, tu reçois un pourcentage de la facture?
Parce qu'en réalité, ouais. là, je vais parler, je suis hors de mon domaine total, mais j'imagine que le logiciel installé sur la Wii U appartient à Nintendo. Donc, c'est leur software, ça leur appartient. Mais là, le gars crée un nouveau logiciel que lui a créé, qui interprète la Wii U. Donc, est-ce que ça reste légal ou c'est illégal?
JP pourrait me répondre peut-être à ça, à ma question qui répond à toi. Je sais que dans la musique...
Il est fort là-dessus, à soi.
Non, mais c'est des questions qui répondent.
Ça fit bien, là, parce que je pense que ça répond en ça. Y a-tu... Moi, gars, quand j'étudiais en publicité puis tout, j'ai appris des affaires de droit d'auteur pour des jingles puis des affaires de même, puis sur le coup tu fais comme qu'est-ce que c'est ça, mais je pense que c'est 3 ou 5 notes en ligne de la même composition, si on peut dire. Je me souviens plus du chiffre exact, là, mais si c'est 3 ou 5, peu importe, à toutes les fois, si tu fais une note de plus dans la même lignée d'une tune thème ou quelque chose, ben si tu payes pas les droits, tu te fais poursuivre, tu sais. Fait que, est-ce que le gars, quand il crée un logiciel qui joue la même affaire ou qui lit la même affaire, est-ce qu'ils font « Ah, oh, il y a 3 lignes de code qui sont pareilles. »
Écoute, je peux pas...
Tu as un droit d'auteur de code, je sais pas si tu comprends.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, à quel point c'est du fair use, dans le fond, de reverse engineering ça. Il faudrait vraiment que tu regardes la jurisprudence à ce niveau-là, ce qui a été fait au préalable, les poursuites en justice qui a eu lieu dans le passé par rapport à ça, puis les conséquences de ça en cours, puis les appels qui ont suivi, tout ça. Écoute, c'est vraiment hors de ma zone.
Mais ça pourrait être pour d'autres choses aussi qu'une console de jeu, tu sais, un droit d'auteur sur du code, ça existe-tu?
Mais c'est du code propriétaire, en fait. C'est qu'eux autres, c'est leur code et leur propriété intellectuelle à l'entreprise, à Nintendo. C'est pas un code qui est ouvert, c'est pas open source, c'est pas libre. C'est leur propriété intellectuelle, puis c'est leur gang-pain, littéralement. Ça fait partie... Tu lis que ça, c'est comme une forme d'espionnage industriel aux yeux de la loi, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est au minimum une zone grise, mais là, il faudrait que tu parles à un spécialiste en juriste. Ouais. Non, donc, mais non, c'est ça, parce que là, je voudrais pas répondre là-dessus, mais il faudrait checker les précédents, parce que des cas de hacking de console puis qu'il y a eu poursuite, il y en a eu, là.
Oui.
C'est juste que je les ai pas sous la main.
J'ai jamais pensé de checker ça, mais c'est intéressant.
Il y a eu de la législation qui avait passé aux États-Unis aussi.
Ça dépend où ça se passe aussi, exactement. La poursuite en question, tu sais, parce que là, si c'est au Japon, Nintendo au Japon, la législation est pas pareille qu'aux États-Unis, puis dans certains États aux États-Unis, c'est pas pareil que... C'est dans d'autres états.
Ben, tu sais, même qu'il y a des débats, surtout dans le temps de la mod chip. Je me souviens où les mod chip au Canada, selon les droits d'auteur d'un appareil, c'est que tu avais le droit d'acheter l'appareil, mais de modifier l'appareil était vu comme illégal parce que c'était justement une infraction de propriété intellectuelle. Fait que c'est pour ça que, tu sais, justement, la zone grise ce soir, c'est que la raison pourquoi je mettais ça sur la table, c'est que la croyance générale est que quelqu'un se procure un jeu. T'as acheté un CD, un livret et un boîtier, mais en réalité, c'est pas ça que t'as acheté. Ce que t'as acheté, c'est le code qui est dessus, le puis l'information.
Le droit d'utiliser, exactement. Ça, c'est le principe du Digital Rights Management. Là. C'est pas le jeu que t'achètes. Là.
C'est ça nos CD aussi qu'on achète à cette heure. On s'entend que quand j'achète un jeu de PS4, j'ai pas 68 gigs de... sur le disque, là, il fallait que me débarrer de quoi, puis là, ça download mon installation.
Ben, c'est pour ça aussi qu'on a vu l'arrivée
j'ai quand même un CD.
Des parallèles de Spotify où tu payes pour avoir le droit d'accéder à leur base de données parce que c'est un coût qui est, mettons, 9,99 ou 14,99. Fait que tu as le droit d'aller accéder à ça, puis tu as le droit de les télécharger pendant 30 jours parce que quand tu as payé au début de ton 30 jours, ton 9,99, tu as la licence, tu as le droit d'y accéder. Mais à la fin, par contre, c'est pour ça que si tu cancelles ton compte, ben, ce que tu as téléchargé ne t'appartient plus parce que c'est une licence d'accès que tu payes.
Ben, en fait, c'est une bonne comparaison parce que l'exemple de l'industrie de la musique, ça a passé d'une industrie de produits où tu achètes des CD à une industrie de services.
Ouais.
Maintenant, c'est que là, tu as des services comme Spotify ou autre là, qui te donnent le droit, est-ce que c'est un service que tu as le droit de prendre la musique que tu veux, peu importe. Là, c'est illimité.
Comme un Netflix.
Là. Ben oui, c'est tout ça, c'est des industries de services maintenant. Puis jusqu'à un certain point, si dans le gaming, ça se déplace un peu vers ça parce que tu te dis, mais c'est ça. Le jeu, tu peux l'avoir. Ce que tu payes pour, c'est la licence puis le droit d'utilisation.
Parce que le CD, on s'entend qu'il n'y a pas rien dessus, là, ou presque. Là.
Ben, le CD, c'est le médium, mais tu payes pour le contenu en réalité. T'sais, pis,
ouais, mais en général, en tout cas, les dernières fois que j'ai acheté un CD, que ce soit d'Xbox One ou de PS4, je mettais le CD dedans puis je voyais downloading 64 gigs, pas installing 64 gigs.
En fait, ça, c'est le day one patch souvent que tu vas télécharger. Oh,
ouais, c'est ouais, mais
puis, le downloading aussi, souvent, c'est qu'ils vont inclure l'installation dedans. Puis, au bout du compte, le contenu du CD ou du Blu-ray, tu ne loads plus. C'est comme juste l'autorisation qui est sur CD que tu loads, puis le reste, c'est sur ton...
Civilization, que je m'étais procuré. Écoute, j'ai acheté Civilization, je pense que c'est le 5, que j'ai payé comme 20$, quelque chose de même. Je suis arrivé chez nous, puis c'était un Steam Code dedans.
Oh, ça, moi, ça m'a tué aussi.
Là, j'ai fait comme, bon, ben OK, let's go. Fait que j'ai rentré mon Steam Code, ça m'a permis de downloader, puis ça l'a rajouté à ma librairie Steam, mais j'avais acheté physiquement une boîte. Puis ça, je trouve, c'était le plus gros symbolisme du fait que j'ai pas acheté un CD, là. J'ai payé pour un emballage, mais en réalité, j'ai acheté une propriété intellectuelle.
T'as acheté un emballage, dans le fond.
Ben, quand j'avais acheté Half-Life 2 avec mon frère, dans l'époque, il était sorti, ma surprise, pogne le DVD, s'actionne à l'ordinateur, je l'installe, j'installe Steam. J'installe pas Half-Life 2, j'installe fucking Steam. Puis, j'ai un CD key dans la boîte qui vient avec. Have fun, faut que tu le downloades.
Oui, puis on sait que dans le temps de Half-Life 2 aussi, on n'avait pas les connexions Internet que nous avions aujourd'hui.
Nope.
8 jours plus tard, il peut jouer.
Mais parlant de cette propriété intellectuelle-là, il y a une autre nouvelle aussi, puis je voulais le garder comme le dernier sujet parce que je trouve que c'est un peu l'ironie de la sorte. Mais la NES Classic, il y a eu une nouvelle qui a fait les manchettes pendant quand même assez longtemps. Il y a eu un hack de NES Classic qui est sorti.
Encore une fois, excuse, pas trop longtemps après. Exactement. On s'entend que c'est, ça n'a pas pris de temps avant que ça soit hacké.
Mais celle-là, ce piratage-là, par contre, moi, il est venu piquer ma curiosité pour un peu. Sa belle zone grise. Donc, je vous explique.
Plugger le thème.
Il fit tellement le thème à ça. Puis, j'ai passé tellement le temps, j'étais comme Chris, on l'appelle comme
ça. On va faire un jingle, genre jingle zone grise.
Tu viens de le faire. Fait qu'en réalité, là, c'est que il y a un hack qui est sorti de la NES Classic qui permet aux gens de flasher le firmware d'un NES Classic qui est carrément un firmware de Linux qui va lire des fichiers et permet d'ajouter des jeux dans le NES Classic. Par contre, là, il y a des brillants ingénieurs de Homebrew qui ont commencé à regarder ça, puis là, ça a graffiné leur curiosité, puis ils ont commencé à pirater la console et ils se sont rendus compte que le file system de la NES Classic soutenait des fichiers des ROM, donc des .NES, etc. Le ROM qui est en réalité un fichier qui a été créé par la scène.
Radio Shack, là, on parle.
Fait que la scène de hacking de console dans le temps, on trouvait un moyen, comme tu mentionnais, Milter, ils ont créé un lecteur qui extrait le code de la cartouche, puis comme un fichier zip, condense tout ça dans un seul fichier avec une extension propriétaire. Mais là, l'ironie du sort un peu là-dedans, c'est que Nintendo, ça fait des années qu'il essaie d'enrayer justement ce piratage-là, donc ce partage de propriété intellectuelle, donc les ROM. Fait qu'il y a bien des gens
Je savais pas que Nintendo était en guerre vraiment dans un sens contre les ROM.
Ben, c'est sûr qu'eux, ils l'endossent pas parce qu'à chaque fois que quelqu'un download un ROM de Chrono Trigger, ben, c'est un jeu sur la Virtual Console qu'ils vendent pas, ou c'est la possibilité de le ressortir en version iOS ou peu importe. Ou...
Non, mais souviens-toi, à la fin des années 90, le début 2000, la scène de Wares puis de ROMs était vraiment high. Puis
ouais,
les sites qui se faisaient fermer, man, un après l'autre, là, par Nintendo.
Les sites qui se faisaient fermer.
Oui,
je pensais pas que c'était vraiment.
Le pic de la guerre était à la fin des années 90, je te dirais. Là, quand même. Mais il y en
c'est
a
quand même
eu.
Curieux parce que moi, au contraire, j'ai l'impression que il y avait juste de plus en plus de sites dans ces temps-là, puis qu'on justement on dirait qu'ils s'en préoccupaient pas des ROM de NES, de SNES que tu pouvais downloader sur internet, parce que dans mon souvenir, écoute, les sites
c'était plus ce qui se vendait.
Non, ça se vendait plus, on pourrait quasiment considérer ça comme étant un abandonware parce qu'ils se distribuaient plus, ils se vendaient plus parce que mettons
puis
c'était le Nintendo 64 qui était sorti. Fait que là, le NES ou le SNES, ils vont se faire comme, ben écoute, si tu le télécharges, j'aurais pas plus faire une scène dessus. Là, à ce temps, il y a des Virtual Console qui sont sortis, tout ça. OK, là, ils veulent reprendre leurs droits. C'est pour ça qu'il y a bien des sites de ROM qui sont pas fermés. Par contre, on peut vite se rendre compte que tout, mettons, Super Mario Bros, Metroid, toutes les propriétés intellectuelles de Nintendo qui font encore d'argent dessus, ils disparaissent au fur et à mesure. Puis tous les jeux qu'ils ont pas eu de ROM, mettons, c'est Virtual Console, eux autres sont encore là.
Ben, tu sais, c'est un peu pour ça que là, l'ironie du sort, c'est que, ben, le hack de la NES classique permet de loader des nouveaux ROM. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que la technologie qui permet à la NES classique de fonctionner utilise un fichier de système qui a été créé par des pirates dans le but de distribuer gratuitement ce format de jeu-là. T'sais.
Puis ils l'ont même pas modifié.
Puis ils l'ont pas modifié. Fait que là, présentement, ce qu'on fait, ce que j'essaie d'expliquer tant bien que mal, c'est que quand vous payez 89,99 pour acheter une NES classique, en réalité, Nintendo vous vend
un émulateur
dans qui fonctionne avec un build Linux, émulateur
beau,
à 89$.
Nintendo l'émulateur.
Ben c'est ça. Sauf
pour le design là.
Je trouve que c'est un beau, excusez-moi le terme, mais c'est un beau fuck you que Nintendo est en train de faire à une belle génération.
Dans le fond, ils veulent juste réduire les ventes de Raspberry Pi pour que tu fasses ton propre émulateur.
Ben, en réalité, ils sont allés chercher un market share de ça, c'est qu'ils sont allés chercher une part de marché de gens qui y achetaient le Raspberry Pi puis. Sont allés exploiter le genre, comme qu'ils l'ont fait avec la Wii. Il y a un paquet de monde qui jouait pas à des jeux vidéo, mais quand ils ont sorti le bowling sur la Wii, il y a un paquet de monde qui sont acheté une Wii pour jouer au bowling. Mais là, il y a un paquet de monde qui était pas qui était pas à l'aise de s'acheter un Raspberry Pi, de le coder puis de le modifier, puis qui il aurait aimé ça avoir justement des émulateurs dans le salon. Fait qu'eux, ils ont créé un précédent, ils ont fait on va vous vendre une boîte qui fait exactement ce que tout le trouble qui existe, mais one shot package deal, on vous le vend préfet.
Tu payes pour le marketing puis le design avec Nintendo.
Carrément.
C'est ça, parce que la comparaison avec le Raspberry Pi est bonne. Tu sais, c'est comme autant que c'est cool puis c'est accessible, parce que c'est le modèle le plus cher est quoi, 20$, 30$, je pense, avec le Raspberry Pi 3.
Ouais.
Chose comme ça, 30$. Mais c'est intimidant pour le citoyen lambda. Hey, c'est un board, là. Nu de même, man.
Ouais.
Là, amuse-toi. Non,
installe ton logiciel d'exploitation, installe tout, là.
Ça s'adresse à un public fermé d'informaticiens, de geeks, de hackers, puis de monde qui aime ça. Mais c'est pas la population at large. Le Nintendo classique, c'est ce qu'on a tout le temps connu, ce que tous les gens de notre génération ont connu. Tout le monde connaît le Nintendo. Tout le monde connaît un fucking Nintendo, man. Ouais. Ginette à Blainville connaît Nintendo, tu sais. Assez, ça ressemble à quoi? Parce qu'on a acheté à ses enfants. Ouais. Tu sais. Fait qu'eux autres, ils vont aller chercher ce marché-là. Oui, ça coûte 4 fois plus cher qu'une Raspberry Pi. Puis RetroPie, man, si tu mets tous les émulateurs que tu veux là-dessus, toutes les games, puis ah ouais, là, t'as une SD card de 32 gigs, là, tu l'as en masse d'espace, mets tous les ROM que tu veux là-dessus, tu sais.
T'as sûrement toute la bibliothèque des jeux sortis, là.
Toutes les consoles 16 bits puis 8 bits qui existent, là,
ça rentre en masse.
Over, tu sais. Mais tu payes pour le design puis le marketing avec Nintendo.
Mais là, ce qui est malade en plus.
La simplicité aussi. On s'entend.
Oui, oui, t'achètes une paix d'esprit, voilà. Tu sais, mais pensez-y en plus, parce que là, les gens qui achètent ça, puis j'en ai acheté une, moi.
T'as juste 30 jeux.
J'ai acheté une machine à 30 jeux, j'ai acheté un émulateur à 89$, j'ai acheté de la nostalgie en réalité. Mais là, une fois que mon achat a été fait, tu sais, j'ai le cerveau qui part, puis je me suis mis à repenser à ça parce que ça me fascine le retail. J'ai acheté quelque chose que Nintendo, premièrement, ils ont même pas eu à développer parce que l'industrie a développé des émulateurs pour eux. Deuxièmement, le file system existe déjà, donc le hack qui existe a juste confirmé que vous prenez quelque chose qui a été créé par une scène gratuitement pour distribuer, puis eux autres, ils ont fait de l'argent là-dessus. Ils payent peut-être 3,50 de plastique, puis ils ont payé peut-être un gars un après-midi pour faire un build de Linux là-dessus. Ils nous vendent ça 89$. Puis les jeux qu'ils vous fournissent sous forme de ROM à l'intérieur de ça...
C'est tous des droits, eux autres,
presque. Ben, c'est des droits que... tous les coûts de développement ont déjà été remboursés aux millions de fois. Fait que le profit est incroyable sur ces machines-là.
Par contre, il a fallu qu'ils redéveloppent les jeux, parce que si je me souviens bien, le jeu fait l'upscaling en 1080p pour qu'il soit compatible et que ce soit pas super pixelisé.
Ben, en réalité,
il y a une certaine adaptation, mais tout le, c'est pas le coût de développement du jeu au complet.
Mais les ROM étaient déjà pas mal
ben, en réalité, tout,
ou presque upscalés aussi.
C'est l'émulateur dans la boîte qui fait l'upscaling, parce que souvenez-vous encore, le hack qui est là, ben moi je prends mon ROM de DuckTales qui est pas sur la NES classique, je mets le fichier ROM que je n'ai pas altéré, je n'ai pas rien fait, c'est l'émulateur dans le NES classique qui fait l'upscaling.
Tu viens de me faire passer à quoi dans les je check souvent les upcoming games sur le, Xbox Market, puis j'ai remarqué qu'il y en a un qui s'appelle Disney Afternoon Fun Pack ou quelque chose de même, puis ça sort je pense la semaine prochaine pour 30$. Tu peux avoir Chip and Dale, DuckTales, je suis pas sûr, je pense Darkwing Duck.
Wow.
Puis en tout cas, t'as 4 jeux de Capcom, de Disney, dans le temps qu'ils faisaient toutes les platformers, 8-bit pis tout. Puis ça vient de me faire penser que ces jeux-là vont sûrement disparaître des ROM market bientôt. Et,
ouais, si je pense que ça sort déjà
tenté de disparaître.
Ils sont en train de ressortir ça en digital market.
Les
tout.
Megaman ont disparu justement. Les Megaman parce que sont toutes iOS sont sortis puis ça rendrait aussi.
Ben tu sais, vous voyez, c'est un peu ça. Fait que tu sais, moi, ce que je voulais qu'on illustre un peu ce soir avec la zone grise, c'était un peu tout ce. Ce derrière le rideau qu'on n'a pas tendance à penser non plus, mais c'est un peu, moi je trouve c'est l'ironie ou une compagnie qui ont perdu probablement beaucoup d'argent par rapport à ce piratage-là qui a été fait, est en train de faire beaucoup d'argent sur le dos des personnes qui ont créé le logiciel, créé le file system, créé les émulateurs, etc. Mais c'est surtout aussi sur la facilité puis le manque d'éducation du consommateur qui sont en train de faire de l'argent. Parce qu'effectivement, ben, il y a un paquet de monde qui aurait pu acheter un Raspberry Pi et le faire de façon légale slash illégale. Est-ce qu'une cassette est un abandonware? Est-ce que la propriété intellectuelle leur appartient toujours? On n'est pas des avocats ce soir, on peut pas vous dire ça. D'un autre côté, par contre, ben, y a un paquet de monde aujourd'hui dans leur salon qui écoute peut-être même pas le podcast, qui sont en train de jouer à Punch-Out sur leur NES classique, qui sont super heureux, puis qui n'auraient pas pu le faire si le produit n'existait pas. Fait qu'on s'est posé la question au début, t'sais, c'est quoi le coût relatif pour les compagnies d'avoir ce piratage-là? Mais on voit par contre que le piratage, le hacking, le développement, le codage, etc., fit super bien dans l'engrenage de tout cet écosystème-là, parce que il y a des produits qui n'existeraient sûrement pas aujourd'hui s'il n'y a pas un gars qui aurait eu la curiosité de voir comment un jeu est programmé sur une cartouche il y a quelques années, puis si le monde n'aurait pas partagé leur note d'open source sur le net aussi non plus. Fait que c'est cool de voir ça tout imbriqué. Puis...
Le hacking, c'est un peu comme un genre de R&D passionnel.
Carrément.
Dans un sens, parce que le gars, il fait pas ça, il est pas payé, il est pas subventionné comme les ingénieurs réguliers d'une compagnie, mais il fait ça par passion.
Nice.
Puis c'est un avancement à cause de ces gens-là, souvent. C'est pas tout le temps des gens nuisibles. Comme,
c'est des gens comme la gang de crypto, tu sais, que vous avez votre job
j'ai
dans
dit
le jeu.
Pas nuisible. Et...
Ah, ok, excuse. Fait que c'est vraiment pas comme. Mais en réalité, c'est carrément comme vous autres qui. Vous avez une job dans le jour, puis le soir, vous prenez votre temps pour rédiger des articles, aller à des endroits, parler au monde.
Hacker
puis,
des switches.
Hacker des switches, puis non. Mais tu sais, c'est de conscientiser les gens, puis c'est par une passion. Puis tu sais, vous avez votre place dans l'écosystème, justement, puis c'est une place qui est grandissante. Ben, même affaire pour le gars qui pirate une console.
Ben, en fait, ouais, ce que tu es en train de dire, c'est que cette passion-là a été un peu reprise par Nintendo et autres compagnies, mais surtout Nintendo, genre, dans le fond. Ça, c'est le bout qui te fait tiquer, je pense. Que, mais tu sais, en même temps, tu peux-tu blâmer. Tu peux pas blâmer un chien d'être un chien, tu sais, dans le sens que Nintendo, je reviens à ça encore, c'est une entreprise, c'est une corporation,
voilà.
Son but c'est de faire du cash. Puis c'est le génie de Nintendo d'avoir su faire du cash encore avec des jeux vieux de 30 ans, 35 ans des fois, ben surtout une trentaine d'années, tu sais, une autre itération d'une autre console, encore une fois pour une nouvelle génération de gamers, eux autres ils vont acheter ça parce qu'ils l'ont pas connu dans leur jeunesse ou pour les plus nostalgiques.
Juste la nostalgie. Il parlait de Punch-Out. J'ai acheté Punch-Out sur ma Wii Virtual Market. J'ai transféré mon Virtual Market de la Wii sur ma Wii U quand j'ai acheté ma Wii U, parce que tu pouvais avec un petit fil, puis c'était bien magique. Puis je l'ai quand même racheté sur ma Wii U Punch-Out.
Hey, combien de fois que t'as acheté PogChamp dans ta vie?
Quatre fois.
Ouais.
Au NES, dans le temps. Ben, j'ai acheté au Super NES aussi, les autres versions, puis tout. Ben, je l'ai acheté en virtual sur ma Wii. Je l'ai transféré dans ma Wii U, puis je l'ai quand même racheté sur le market de la Wii U, parce qu'il fallait que je paye deux fois de plus un piton si je voulais aller accéder l'autre. Fait que j'ai fait, non, ça va être plus cool de l'avoir direct.
Fait qu'on s'entend que t'as pas payé pour un jeu, mais un droit de jouer.
J'ai payé quatre fois pour ce droit de jouer-là. Puis je veux acheter une NES classique. Puis je vais probablement finir Punch-Out une couple de fois là-dessus. C'est un de mes jeux préférés de nostalgie, genre, que t'oublies juste. C'est comme du basic, Punch-Out, t'oublies pas.
Ben, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Puis regarde, tu l'as acheté à plusieurs reprises. J'ai acheté moi aussi des jeux
Mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Je suis conscient de ça.
Mais je suis content, puis je veux lever mon chapeau parce que ce fuck you-là que Nintendo a fait avec la NES classique, c'est pas vraiment un fuck you, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part dans le siège social de Nintendo qui a fait comme à tapeur, là. La technologie existe, ça nous coûte presque rien de développement, puis on va faire un magot avec ça.
On est les seuls qui peuvent diffuser certains jeux, en
Exactement.
Plus.
Exactement. Fait qu'eux, ils ont fait ça, mais je trouve ça cool parce que, ben, tu sais, c'est pas juste du négatif. T'sais, on a tendance à penser souvent, le piratage, c'est mauvais, telle affaire, c'est mauvais. Mais ça a créé quelque chose de bien pareil, parce que ça a créé quelque chose qui est pas super dispendieux, puis qui est accessible à un paquet de monde qui n'aurait pas les connaissances.
Attends, accessible, c'est un grand mot, parce qu'il n'y en a pas nulle part
non,
pour en acheter.
Non, toujours encore.
J'en veux
au retail.
J'en veux une, tu sais, je suis prête. Ça fait six mois, là, tu le sais.
Rareté artificielle, hein, ça, c'est,
ouais,
c'est voulu.
Ça. Ouais, 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 ben, ouais. Artificielle ou pas, j'en trouve quand même pas, puis j'ai bien du monde qui sont sur le cas pour moi. Là,
ouais, mais ça n'existe pas, la rareté artificielle, tout comme l'obsolescence contrôlée.
Non, c'est
ça
un complot.
Non.
La discrimination positive.
Fait guys... Ça a été un épisode super cool ce soir. Ça a été vraiment le fun. On a dérapé dans tout bord, tout côté. JP, il va falloir que tu reviennes, honnêtement. C'est le temps des bons shows quand t'es là.
Attends pas un an pour me ramener.
Non, certainement
je sais bien que ça
va prendre
comme 4 mois faire un show puis le publier, là, mais ça fait juste 2 émissions, en fait, depuis la dernière fois que
c'est
je suis
moins
venu.
Pire.
Faire un show, c'est pas long. C'est l'éditer puis le publier.
C'est ça, je veux dire. Ouais, ouais.
Mais merci d'être venu, honnêtement.
Merci
c'est super
toi,
cool.
Merci à vous.
Oui. Merci, Max, d'avoir été là aussi. C'est
ouais,
pas
ça
mal
fait
de
plaisir.
Fun. Tu commences à être plus à l'aise avec la gang, fait que ça, c'est le fun.
Un autre level.
C'est sûr que ça aide de moins me faire couper la parole, je tiens à le dire, mais sinon l'habitude elle commence à se
passer. Excuse-moi pour les fois que je t'ai coupé ça.
Non, c'est correct, puis j'en veux pas
que
là, toi,
on...
André,
mais c'est sûr que ça vient avec l'aisance de toute la gang, c'est vraiment cool. Dans le fond,
mais, avant que tu, prochaine fois qu'on risque de se revoir avec JP, on va essayer de faire un cross collabo avec les autres chiens de garde ou
ben, honnêtement,
tu veux juste
un...
nous garder pour toi et puis
ben écoute, moi on est ouvert à plein d'affaires qu'on peut faire ensemble dans une même pièce.
Ouh,
avec des micros et des caméras.
Oui, c'est exactement. Ouais,
en,
ouais.
En autant que c'est live streamé. Moi.
Autant que c'est live stream, on aime bien ça les live stream.
Ou en POV. Là.
On pourrait se trouver un. On... Tout le monde a une caméra dans le
cadre. Brazzers,
on fait un podcast.
On est ouvert à tout, Jonathan.
C'est bon.
Fait que,
on organise ça au Yeast.
Ça serait assez excellent, puis surtout qu'on en a parlé une couple de fois, fait qu'on va essayer de concrétiser le dossier. Guys, Geek Collectif le podcast, on a un Patreon aussi, Geek Collectif le podcast, vous pouvez aller nous retrouver. Chaque bidou que vous nous envoyez nous aide à garder les lumières ouvertes, inviter du monde pour leur payer à la bière, puis surtout, ben, faire un show qu'on peut partager avec vous autres, un show qui est une balado-diffusion non censurée, vous l'avez dans l'état exactement comme ça a été filmé, puis ça nous fait un plaisir de partager ça avec vous autres. Max, les gens qui voudraient jaser avec toi suite au show de ce soir, on te trouve où?
On me trouve sur pas mal toutes les réseaux sociaux. On cherche Maxime Gagnon, ma crinière, c'est-à-dire pas de cheveux, la barbe. tu cherches Maxime Gagnon. J'ai toujours mon chandail de Yoshi. Tu peux facilement me trouver. Sur les plateformes de gaming, on cherche The Guitarist. Ça va être moi.
T-H-A.
T-H-A, ouais, parce que c'est une façon de dire cool comme au secondaire.
The Guitarist.
Donc, c'est pas mal ça.
Excellent, merci Max. Milter?
Sur Twitter, Zombie Milter, sur Facebook, je suis partout. Twitch, Zombie Milter. C'est quoi j'ai d'autre ici? Ah oui, PlayStation, Xbox, Steam. Ajoute-moi pas Steam, ça vaut pas la peine. c'est Milter 187.
Cool.
Checker mes achievements, j'en débloque plein.
JP, c'est le temps de la shameless plug.
Ouais, je suis PC Gaming Master Race, moi. Fait que vous pouvez me rajouter sur Steam et Twitch, Guy Ledouche Jr. qui est le meilleur nickname de l'histoire de l'humanité, je peux me dire.
Ok, je vais garder ça en note.
J'ai un compte Twitter, mais je suis pas vraiment actif dessus. Mais sur Facebook, je suis quand même plus actif. Jean-Philippe Descaries-Mathieu.
Ça va mourir bientôt, Twitter. Toi, tu peux me le dire. T'as sûrement downloadé.
Ça fait une couple d'années qu'on dit ça va mourir. C'est déficitaire, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Bon. Sinon, ouvrez votre TV. Il y a des bonnes chances que je sois dessus.
Paul Arcand, t'es là. Moi, je t'écoute à Paul Arcand.
À Radio Paul Arcand, je suis là souvent. Souvent aussi au 98.5 en général.
Je peux-tu dire que je me sens comme privilégié parce que je pense que Paul Arcand, lui, te parle par téléphone.
Oui, oui.
Puis moi, j'étais dans ma face. Fait que, tu sais,
quand même. Je
t'aime bien, Paul Arcand, genre. Je t'adore, je t'écoute tout le matin, mais. Faut que tu step up ta game.
Ouais,
invite JP Live.
Il y a un cachet qui vient avec mon déplacement d'habitude.
Ben, c'est encore mieux.
Fait, c'est un bon investissement, justement.
Ah ouais, vous me payez pour asseoir, right?
Pierre-Yves Mixouin, puis Jean-Philippe Descaries, ouais, Mathieu, tout de suite après.
Ouvrez votre radio, ouvrez votre TV.
C'est ma meilleure demi-heure à vie.
Puis là, les gens qui voudraient en apprendre plus sur Crypto Québec, on serait en où exactement?
www.crypto.québec. Sinon, on a un podcast hebdomadaire qui s'appelle Les Chiens de Garde. Toutes les semaines, on publie généralement le vendredi ou le jeudi soir. Checker nos feeds RSS, c'est sur iTunes, machin truc, Google Play Store aussi. Chercher les chiens de garde, vous allez nous trouver. C'est un podcast qui est une revue de presse généralement des nouvelles dans le milieu de la sécurité. Puis
on peut juste le downloader si on a un VPN qui dit qu'on est en Russie, je pense.
Exactement, okay, oui. Sinon, c'est l'IP est bloqué. Ouais, exactement.
C'est bon. Merci JP, toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres.
Merci à toi, André, merci à tout le monde.
Pour ma part, André Paquette, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Sinon, Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, Snapchat. Ben plus Snapchat, je m'en encore de Snapchat.
Depuis Steam, que Facebook a updaté Snapchat, hein?
Fuck you. Ça va me faire un plaisir.
Tes snap glasses, là. Dans le cul.
Ah, les spectacles.
Spectacles, hein? Ta petite crise de boîte qui vient pas à Montréal, qui vend des lunettes, là.
Tu voulais
t'as perdu mon
130$. Je sens de l'amertume un peu
ben,
dans tes paroles.
Il y a de la haine là-dedans. Tu veux réduire ton marché le plus possible, là, mais Snapchat, tu l'as gâché, hein, Chris.
Fait qu'un gros merci d'avoir été avec nous autres pour les gens qui sont en ligne. On vous invite à aller liker le Twitch, twitch.tv/GC Podcast, sinon sur la page Facebook pour aller voir les live streams. Si vous avez aimé les commentaires qu'on a émis ce soir ou vous avez envie de réagir, de nous intimider ou de nous blaster, ça va nous faire un plaisir car votre monnaie sociale est toujours appréciée. Vous allez augmenter le reach du projet. Puis honnêtement, c'est, mis à part les contributions financières sur le Patreon, le bouche à oreille est pas mal la meilleure chose que vous pouvez faire pour essayer de nous aider dans le projet.
Ça ou nous donner 5 étoiles sur Pod Québec.
Exactement. 5 étoiles Pod Québec, 5 étoiles sur iTunes, tout le kit.
Ouais. Donnez 5 étoiles à iTunes, laissez un mauvais commentaire, c'est pas grave. Insultez-moi.
Donc, guys, un gros merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir d'avoir pu partager ces moments avec vous. Et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Donc, bye bye et bonne soirée!